tugize n'imisozi rero ahantu.
Bonjour et bonsoir à tous nos auditeurs de la Voix de l'Amérique, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, à Dakar, il est 16h30, à Bangui, 17h30, à Kigali, à Kigali, il est 17h30, 15h30 à Dakar, 16h30 à Bangui. Dans 30 minutes, nous allons couvrir cette finale, la deuxième édition de cette finale de la BAL, la Basketball African League. Je m'appelle Eugène Pewa Pelema, je suis dans le studio de la Voix de l'Amérique et depuis Dakar, Sedina Bagay, Nangadef, mon frère, comment vas-tu ce matin? Comment tu vois cette belle journée qui va commémorer le nouveau champion de la BAL?
Bonjour Eugène, magnifique, ça va, comment dire, à Dakar, je sais qu'à Washington également, ça va bien, je salue tous les collaborateurs de la Voix de l'Amérique ainsi que les auditeurs de VOA Afrique. Cette journée, on l'espère merveilleuse parce que c'est la finale d'une compétition africaine, 100% africaine, qui doit être dans les années à venir parmi les plus grandes du monde.
Tout à fait, en tout cas... On a pu voir que depuis cette compétition, il y a de nombreuses justement personnalités du basketball africain ou d'origine africaine, Joachim Noah, Yann Maïmi, Elo Deng et plein d'autres encore qui se trouvent actuellement à Kigali. Donc c'est un événement qui est d'une certaine manière très important parce que nous essayons finalement d'avoir notre ligue professionnelle en Afrique et c'est un bon commencement. Toutes les choses commencent petites mais deviendront grandes et deviendront meilleures. Et on peut dire qu'avec ces stats que nous avons, le fait que dans les années à venir, en tout cas, nous allons travailler ensemble, main dans la main, pour trouver les meilleures idées pour faire de ce produit un produit d'excellence pour le basketball centrafricain, africain, excusez-moi, de telle manière à ce que les jeunes d'Afrique puissent avoir leur ligue ici et qu'elle soit fructueuse d'une certaine manière, pas besoin obligatoirement d'aller aux États-Unis ou ailleurs pour gagner de l'argent, mais cela va dépendre de la qualité du basketball qu'on va jouer, de la qualité de nos entraîneurs, de la qualité de nos préparateurs physiques, de la qualité de nos dirigeants sportifs, de la qualité de nos sponsors ou de la qualité de trouver les sponsors nécessaires pour pouvoir faire du basketball africain l'un des meilleurs, l'un des gratins. D'ailleurs, l'Afrique a le meilleur potentiel de basketteurs dans le monde. Pour peu que nous nous mettions à travailler, Sedina, nous allons produire un produit fini qui sera de très, très bonne qualité.
Oui, je pense que pas les basketteurs ou les anciens basketteurs africains, mais les sportifs africains l'ont compris. Parce que quand je vois quelqu'un comme Elhadj Ousmane Diouf, double ballon d'or africain de football, passer toute cette semaine à Kigali pour participer à ces phases finales-là, ainsi que d'autres sportifs, je me dis qu'ils se rendent compte que l'Afrique a besoin, au-delà des disciplines sportives, en dehors en fait, de toute considération d'appartenance à une discipline sportive, ils savent tous que l'Afrique a besoin de ce genre de compétition-là pour que ces jeunes puissent s'épanouir et pour que ces jeunes puissent prétendre au haut niveau.
Tout à fait. En tout cas, aujourd'hui, à l'affiche, en finale, nous avons le Petro de Luanda. Le Petro de Luanda, c'est une équipe, un club d'Angola. Et pour ceux qui ne le savent pas, l'Angola, depuis les années 83, pendant de 1983 et pendant presque 30 ans, le basketball angolais a dominé le basketball africain dans la catégorie masculine homme. Et donc, ils ont beaucoup aidé. D'ailleurs, c'est une ligue, la ligue angolaise est probablement la ligue la plus professionnelle dans le terme du gain. On a des joueurs qui font 500 000 dollars, d'autres 100 et quelques, 250 000 dollars, ce qui n'est pas rien pour un pays africain. Et nous avons le US Monastir qui est aussi un club professionnel en Tunisie. N'oublions pas que la Tunisie a gagné ces 10 dernières années 3 championnats d'Afrique, dont le dernier était à Kigali en 2021. Et que pour le moment, c'est l'équipe ces dernières années qui dominait le basketball africain en termes de constance, même s'il y avait le Nigeria, mais en termes de constance dans les compétitions internationales masculines, la Tunisie était la référence à cause du sérieux du programme qui avait été mis en place dans les années, début des années 2000 par le coach Atlati, qui maintenant n'est plus coach. Et ce produit a donné Mejri, par exemple, qui a joué avec les Dallas Mavericks et d'autres joueurs qui évoluent un peu dans les pays arabes et ailleurs. Mais avant de passer à cette finale, parler de cette finale, on va rapidement, et je te laisse l'honneur d'en parler, de parler du match qui a opposé hier les jeunes de l'Académie à l'équipe des U23 du Rwanda, qui s'est soldé par la victoire de l'Académie par 72 à 53, Cédina.
Je pense que ce match-là, jeune, a montré, en fait, justifie ce que tu dis depuis l'année dernière. On le savait à travers les chiffres, mais sur le terrain, hier, ces jeunes-là ont montré qu'effectivement, l'Afrique n'est pas seulement considérée comme un grenier à cause de sa démographie, ou bien en tout cas des chiffres issus de sa démographie, mais on est considéré comme le grenier dans beaucoup de sports, y compris le basketball, parce qu'il y a vraiment des jeunes talentueux. Et hier, dans ce match-là, on a vu de la maturité, de la folie, et surtout on a vu du talent de ces jeunes-là, même si en face, l'équipe rwandaise a fait valoir également ses potentialités, mais la NBA Academy, en tout cas, hier, a montré qu'il a abattu un réel travail de détection et surtout, il a su polir des jeunes qui sont arrivés avec un talent brut énorme.
Tout à fait, et je pense que cela peut être encore meilleur si l'Académie pouvait prendre part au championnat sénégalais pour pouvoir justement permettre à ces joueurs de jouer constamment, parce que généralement, la plupart de ces jeunes-là font des entraînements avec des entraîneurs dans leur académie. De temps en temps, font des déplacements dans le monde, en Australie et ailleurs, jouer des tournois en Europe, mais ce n'est pas suffisant. Je pense qu'en se frottant avec le menu frottin du championnat sénégalais, cela va leur permettre justement de gagner encore plus de maturité et accélérer la progression de ce qu'ils sont en train de faire là-bas à Dakar, du moins au Sénégal, parce que j'ai oublié le nom exact où il y a le site de la NBA Academy. Et donc, ça permettra à ces jeunes-là de se promouvoir. Moi, je suis directeur technique national de la Fédération Centrafricaine de Basketball et je compte justement sincèrement mettre en place une académie qui va justement former les meilleurs talents centrafricains. Et j'ai même découvert, en rencontrant une jeune fille du nom de Sceaux, qui a fait l'académie, et je ne savais pas qu'au niveau de l'académie, il y avait aussi des filles. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut que les pays africains exploitent, justement, parce que là-bas, d'une certaine manière, beaucoup de pays n'arrivent pas à mettre en place des structures de ce genre pour permettre le développement du basket. Et si on pouvait envoyer la crème de la crème, ça permettrait, avec des entraînements, avec des gens comme Joe Tuomu, qui font quand même un travail remarquable, je le salue en passant, qui pourrait continuer à aider avec les autres entraîneurs. Je ne connais pas tout le monde, mais je connais très bien Joe et je connais son amour et sa détermination et sa passion pour le basketball. Et donc ça, chacun des pays devrait faire en sorte qu'il y ait une académie nationale. Je pense qu'il faut qu'il y ait une académie nationale qui prenne en charge les meilleurs joueurs de la nation, toutes catégories, et qui puisse en même temps avoir le cursus scolaire, parce que sans l'école, ça va être très difficile de jouer en université. C'est pas tout le monde qui peut être professionnel. Et même quand on veut être professionnel, il faut comprendre le business du basketball avant de se lancer à l'extérieur.
Oui, je suis parfaitement d'accord. Et toi qui demandais là où se situe la NBA Academy au Sénégal, c'est à Sali.
Sali,
okay. À environ 80 km de Dakar. C'est une station balnéaire de la petite côte sénégalaise. C'est là-bas aussi où se trouve le centre Djambar, qui a été formé par Patrick Vieira, ancien champion du monde CR7, qui a été président de la Ligue sénégalaise de football, et Jimmy Adjivi Boko. En tout cas, c'est d'anciens sportifs africains ou d'origine africaine et des hommes d'affaires qui se sont ligués pour créer cette académie-là. Et ça rejoint un peu l'idée que tu développes tout le temps, qu'il faut que les gens reviennent, faut qu'ils investissent pour permettre à cette jeunesse-là d'avoir les infrastructures et surtout l'environnement nécessaire pour se développer en tant qu'homme, mais surtout en tant que sportif, mais surtout en tant qu'homme. Parce que si on prend l'exemple de Djambar, comme on a évoqué la NBA Academy, qui est d'ailleurs dans les installations de Djambar, parce que c'est un grand domaine, et c'est là-bas que la NBA a installé tous ses équipements. Ce centre-là a formé des joueurs qui performent au plus haut niveau, comme Idrissa Ganagé qui est au Paris Saint-Germain. Mais comme tu viens de le dire, l'école est importante et ce centre-là a formé également des gens qui n'ont pas réussi dans le sport, mais qui aujourd'hui ont réussi dans la vie. Et l'exemple le plus parfait pour le citer, c'est que l'avocat maintenant de ce centre-là et du club qui en est issu a été un jeune qui a été formé pour devenir footballeur et qui finalement est devenu avocat grâce à ce centre de sport-là, qui est sport et études. D'où l'importance de ce que tu dis tout le temps, qu'il faut investir pour former des sportifs de haut niveau, mais également des hommes.
Tout à fait. En tout cas, pour ceux qui ne le savent pas, le sport est une école de la vie. À travers le sport, on forge le caractère des individus. C'est un endroit, un espace dans lequel un jeune apprend à être discipliné. Il apprend, d'une certaine manière, l'esprit d'équipe, travailler en équipe, l'éthique de travail, le respect de l'autorité, la patience, la persévérance, en tout cas la résilience, la répétition, des choses qui sont importantes, le respect, qui permettent à un individu dans la société de réussir. Et donc, sans ça, cela n'est pas possible. Et il faut que les gens comprennent que ce n'est pas une perte de temps. Je me rappelle, je dirigeais en 2019 un clinique de basketball, un clinique et un camp de basketball au Zimbabwe, à Harare, et la mère d'un des enfants me demandait, mais Eugène, pourquoi je vais laisser mon fils perdre mon temps à jouer au basketball et ne pas aller à l'école? Et je lui ai expliqué, écoutez madame, justement c'est l'erreur que peut-être vous pouvez commettre. Votre fils peut-être aime le basket, mais en même temps vous voulez qu'il aille à l'école. Vous pouvez utiliser le basketball comme un moyen de motivation pour qu'il travaille bien à l'école. Et de facto, tout le monde ne peut pas aller en université, tout le monde ne peut pas jouer professionnel. Mais si ça peut permettre à un enfant de s'épanouir et de travailler à l'école et de réussir dans les études, je lui ai dit, s'il est bon, il peut aller dans des universités aux États-Unis ou ailleurs, et on lui donne une bourse et il peut faire ses études. C'est pas comme si c'était du temps perdu. Et donc, les parents doivent comprendre qu'ils peuvent utiliser ça en plus. Ça peut empêcher des enfants à s'adonner à des pratiques, la drogue, l'alcool, toutes ces choses, ces mauvaises choses qui font que les jeunes se déroutent du chemin qui a été tracé pour eux, Cédina.
Oui, Eugène, c'est très important parce que, comme tu l'as dit, le sport permet à ces jeunes-là de canaliser leur énergie et surtout ça leur transmet des valeurs. Et je pense que les parents s'en rendent compte de plus en plus parce qu'ils voient, on est loin de l'époque où sport de haut niveau peut-être rimait avec certaines débauches, parce qu'il faut le dire, en Afrique, c'est comme ça, surtout en Afrique, c'est comme ça que les parents voient le sport, que ça pouvait être une porte pour que leurs enfants s'engagent dans des choses pas nettes, mais aujourd'hui, avec l'environnement qui est mis en place dans le sport, avec les valeurs qui sont développées dans le sport, je pense qu'ils se rendent tous compte que c'est un complément dans l'éducation qu'ils donnent aux enfants, et surtout, c'est quelque chose qui permet à ces enfants-là de très tôt savoir prendre les responsabilités, parce qu'en sport, il faut le dire, quand on décide de faire la passe ou de shooter, par exemple, au basketball, on prend ses responsabilités, donc le sport permet aux jeunes de très tôt savoir ce qu'il faut faire dans cette situation. Et après aussi, dans la vie, avec les valeurs qu'on lui inculque, il peut plus facilement faire le discernement entre le bien et le mal, et surtout savoir là où il va aller et comment il va y arriver.
Tout à fait, j'avais même oublié, tu l'as dit sans dire le terme, le sport permet aussi de développer des leaders. Et donc le leadership, c'est important. Parce que toute personne est appelée à être leader, que ce soit dans sa famille, dans au travail, ainsi de suite. Et donc, on a chacun des rôles à jouer. Mais pour repartir sur cette finale qui va aujourd'hui voir deux équipes, le Petro et le Monastir, se rencontrer, on va rapidement rappeler comment le Petro de Luanda s'est qualifié en quart de finale de ce tournoi à Kigali. Elle a battu le Salé du Maroc de 13 points. Puis battu les forces armées et police de 14 points, si je ne me trompe pas. Pendant ce temps-là, le Monastir a battu de 39 points les Cape Town Tigers d'Afrique du Sud et a battu le champion de l'année dernière, le Zamalek, de 7 points. Et donc aujourd'hui, on a deux équipes, Cédina, qui vont se rencontrer. rapidement avant de, que je te permette, c'est-à-dire que je te laisse faire des commentaires. Je présente quand même le 5 en jeu de cette équipe de Petro de Luanda. Il y a le meneur de 1m72 et virevoltant et super efficace en défense comme en attaque, Childe Dundao, qui tourne en moyenne avec 25 minutes et qui marque 12,3 points, 3 rebonds et 4 assists, et qui est d'une certaine manière une ventouse, une sangsue qui dérange justement les meneurs des équipes adverses. Ensuite, on a Carlos Moraes, qui est très connu, multi-champion d'Afrique en afro-basket avec cette équipe d'Angola, mais aussi en club champion, non seulement avec le Petro, mais avec le Primero de Agosto, où il a été plusieurs fois champion d'Afrique, et en moyenne 27 minutes 23 secondes, il tourne avec 13 points, 3,7 rebonds et 3 assists. Ensuite, nous avons Lukeny Gonzalez, gaucher super doué, hein, qui joue de mieux en mieux, parce que j'ai vu un peu son développement, comment, ce qu'il faisait il y a quelques années où il tirait un peu n'importe comment. On sent qu'il a gagné de la maturité, qui tourne à presque 25 minutes avec presque 10 points, 3-4 rebonds et 5 assists, et qui est vraiment un joker de cette équipe. Il décante souvent le match à des moments très difficiles, et il fait des choses avec sa main gauche que seuls les gauchers peuvent faire. Il y a ensuite le big man Aboubakar Gakou, qui est un joueur super efficace, en plus avec la possibilité de prendre des tirs à 3 points, et qui tourne à 20 minutes avec 10 points, 6 rebonds, et qui joue un rôle à la fois offensif et défensif. Et bien sûr, aujourd'hui, on a mis John Pedro, qu'on a mis pour remplacer Moreira dans le 5 d'entrée de jeu, qui est un joueur en grande partie défensif, avec ses 23 minutes, 8,4 points, 6,7 rebonds, et qui est un joueur qui, pour la plupart du temps, reçoit un joueur des deuxièmes chances. Les deuxièmes chances, c'est-à-dire les tirs ratés, qu'il fait des put-back, où il reçoit des alley-oop, et il fait des dunks. Mais dans cette équipe, il y a quand même d'autres joueurs, tels que Gerson Gomingos, qui joue un rôle très important, qu'un point guard, et qui joue pas mal de temps aussi, presque 15 minutes. Il y a Yannick Moreira aussi, qui joue un bon rôle, puisqu'il marque 10 points en moyenne, et il est important. Il y a les anciens, comme Cipriano, Olympio Cipriano, qui a été multiple champion d'Afrique en club comme en nation, et qui joue un rôle super efficace aussi. Il y a Lionel Paolo, qui est aussi un ancien, qui joue, même s'il ne marque pas autant de points, mais qui a la maturité, vous savez, au basketball, pour donner du temps à ceux qui jouent plus de temps sur le terrain. On met un joueur sur le terrain pour pas qu'il perde trop le ballon, qu'il puisse gérer le match le temps que les titulaires puissent revenir, et il joue bien son rôle. Et bien sûr, je n'oublierai pas mon jeune compatriote Thierry Darlan, qui est un joueur du futur, qui n'a à peine que 18 ans, et qui est un joueur qui est très efficace. J'espère qu'il verra le plancher aujourd'hui, même si c'est vrai que c'est une finale et que leur coach, qui vient juste de gagner le trophée de meilleur entraîneur de l'année, le coach José Neto, veut gagner cette finale. J'espère qu'il va penser quand même à faire jouer ce jeune-là. Je te laisse commenter sur cette équipe d'Angola avant d'aller sur l'équipe du Monastir, Cédina.
Oui, José Neto, je pense que le titre est mérité, Eugène, parce que être capable quand même de trouver les ressources pour régénérer cette équipe sans pour autant en changer l'ossature entre la première édition et cette deuxième édition-là jusqu'à atteindre la finale, je pense que c'est quelque chose qu'il fallait faire. Et sur l'équipe, on ne peut pas dire qu'il donne assez la chance aux jeunes, et je pense que l'exemple de ton compatriote Thierry Darlan en illustration. Maintenant, il sait bien utiliser ses joueurs quand même, parce que comme tu l'as dit, à chaque fois, même quand il fait tourner, il sait quel joueur mettre pour ne pas peut-être perdre le fil du match, et ne serait-ce que pour ça, et pour avoir su insuffler une nouvelle dynamique à cette équipe-là entre la saison 1, où il faut le dire, ils sont passés à côté, et cette saison 2, où à part la défaite contre le Zamalek, et il faut le dire aussi que lors de cette défaite même, ils ont performé. Je pense qu'ils ont été à un niveau très satisfaisant, et aujourd'hui on attend une confirmation de ces joueurs-là, de ce collectif-là, parce qu'il s'agit véritablement d'un collectif Parce que quand on voit la demi-finale où Carlos Moraes a été très loin de son niveau de cette année, et où des joueurs comme Dunda ont joué à Chypre, si je peux le dire ainsi, parce que littéralement, à lui tout seul, il perturbait toutes les phases offensives des forces armées et polices. Il chipait des balles, il mettait des points essentiels à des moments clés du match. C'est dire que dans ce collectif-là, tout le monde tourne bien et quand les uns tournent moins bien, les autres sont là pour se plaider. Et je pense que au-delà des individualités, c'est ce qui fait vivre la force de l'équipe du Pétrole de Luanda.
Tout à fait, Sedina. Et donc, je voulais juste ajouter quelque chose justement par rapport à leur contre-performance, si on peut dire ça, l'année dernière. Je pense que quelquefois, il y a des choses qui se passent. Peut-être qu'ils n'ont pas eu une aussi bonne préparation. Peut-être que leur championnat avait joué. Ils n'ont pas su comment doser les efforts. Et je connais le basketball angolais. C'est des gens qui bossent très durement quelquefois. Ils bossent des fois un peu trop. Peut-être qu'ils étaient saturés. Et que cette année, justement, ils ont pris la mesure un peu mieux, justement, pour venir être un peu plus frais dans cette compétition et pouvoir compétir. Mais nous allons passer à cette équipe de l'Union sportive de Monastirienne. Ce n'est pas n'importe quelle équipe. L'année dernière, elle était vue comme l'équipe favorite du tournoi. Mais comme l'a dit Slimane, il avait dit qu'ils avaient peut-être un peu trop été confiants et qu'ils avaient justement abordé cette finale déjà en vainqueur sans pour autant mieux la préparer mentalement. Et donc, ils avaient subi d'une certaine manière le rythme de jeu de cette équipe de Zamalek qui a su justement après le premier carton prendre la mesure et dominer. Et donc, je vais commencer avec le 5 en jeu. Il y a Michael André Dixon, qui est un Américain, qui tourne à près de 29 minutes, 16 rebonds, 2,6 rebonds, 16 points, 2,6 rebonds et 3,9 assists. Et qui est un joueur qui est très important, qui prend des tirs au bon moment, qui ne force rien, mais qui joue un basketball très contrôlé. Il y a l'autre Américain, Julius Cool Jr., qui est pareil, qui sont des joueurs. C'est un autre joueur qui tourne à 30 minutes pour presque 13 points, 3,5 rebonds et 4 assists. Et c'est un joueur aussi qui joue propre, qui joue juste et qui ne fait pas des choses, qui ne prend pas des tirs n'importe comment. Là, son taux de réussite est souvent très élevé. Et nous avons ensuite à terre James Majok, qui est d'origine sud-soudanaise et qui joue 33 minutes, qui est beaucoup plus défensif, qui joue dans la raquette, qui est là, qui dissuade des adversaires à faire des pénétrations et qui tourne quand même à 13,6 points, 12 rebonds et 2 assists, et qui est très important pour cette équipe. Et bien sûr, il y a Firas Layani, qui est une sorte de big man très athlétique, qui aime d'ailleurs faire des super dunks acrobatiques, et qui tourne à 23 minutes 46 secondes pour 11,3 points, 5,7 rebonds et 2,3 assists. Et bien sûr, il y a d'une certaine manière l'éternel Radwan Slimane, qui a 42 ans, continue à jouer à un niveau très élevé, Sedina, avec 31 minutes, presque 16 points, 4,6 rebonds, 4,3 assists, et qui est l'âme de cette équipe, en fait. C'est lui qui garde ses coéquipiers dans le match, c'est lui qui les challenge, qui les défie pour qu'ils jouent mieux. Et nous allons quand même parler de certains joueurs qui apportent un plus du banc. Il y a bien sûr Oussama Marnaoui avec ses 6 points. Il y a bien sûr Diabaté, avec ses 26 minutes, 9,2 points, 3,2 rebonds et 4 assists, mais qui joue aussi un rôle très défensif, qui dérange souvent l'adversaire, qui joue de l'autre côté et qui contrôle le rythme du match chaque fois qu'il rentre. Et bien sûr, il y a Mohamed Mokhtar Gayaza avec ses 17 minutes, 32 secondes, 6,6 points, 5 rebonds, qui est un joueur important, mais qui devra faire attention de ne pas avoir 5 fautes aujourd'hui, parce que la dernière fois, il n'a pas pu terminer ce match et ça aurait pu coûter la victoire à cette équipe de l'Union sportive monastirienne, Sedina.
Oui, je pense que Gayaza, c'est un joueur intelligent, utile au collectif, parce que c'est la principale option dans le turnover, notamment dans la rotation, notamment dans la raquette. Maintenant, il va falloir qu'il fasse beaucoup plus attention au foot, comme tu l'as indiqué. Il y a Diabaté qui, depuis l'année dernière avec les Zamalek, est un facteur X dans n'importe quelle équipe où il joue, dans n'importe quel match pratiquement. Il sait toujours faire la différence, insuffler le rythme dans l'attaque et, comme tu l'as dit, être très concentré en défense. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est un joueur, comme tu l'as indiqué, Eugène, qui est très, très utile en défense. Parmi les titulaires, je pense que je vais m'arrêter sur Slimane, parce que Eugène Slimane, je pense que c'est un modèle à donner aux jeunes qui veulent réussir dans le sport. Parce que jouer à ce niveau, à cet âge, demande beaucoup de choses, y compris l'hygiène de vie, le respect des entraînements et la passion surtout. Et je pense que Slimane, pour donner un exemple aux jeunes, c'est à travers cette Basketball Africa League, c'est le joueur typique pour cela. Parce que c'est un joueur qui, à son âge, avec l'envie qu'il montre, la passion sur le terrain, et surtout physiquement, il peut tenir et il tient. Ça montre qu'il a une bonne hygiène de vie et qu'il respecte vraiment ce sport qu'il pratique.
Tout à fait. Et ce qu'il faut ajouter, c'est que ce qui est extraordinaire, souvent à cet âge, les joueurs font plus d'efforts sur le plan offensif. Mais Slimane joue aussi bien en défense qu'en attaque. Et il joue très dur. Et ça, c'est ce qui m'impressionne le plus chez lui. Quelquefois, je me pose la question, mais dis donc, il carbure à l'énergie nucléaire, celui-là. Rapidement, je vais quand même parler de nos deux de l'académie. Dans cette équipe de l'Union sportive mauritanienne, il y a le jeune Camerounais Charles Yoïk Anana Awana qui, quand même, reçoit quelques minutes de jeu. Je crois qu'il avait joué le dernier match aussi, malgré que le match était serré. Et de l'autre côté, nous avons Thierry Darlan qui est une étoile montante du basketball centrafricain. Qui, si tout va bien, probablement prendra part à la préparation que nous allons faire pour les qualificatifs de la Coupe du Monde que nous allons jouer du 1er au 3 juillet à Abidjan cette année. Et donc, ces deux jeunes qui ont des qualités et, comme on l'a dit, cela va porter fruit dans le temps. Mais aujourd'hui, on a deux équipes qui ont presque les mêmes genres de style de jeu puisque ces deux équipes qui peuvent à la fois jouer une attaque half court, c'est-à-dire mi-terrain, mais qui peuvent aussi jouer la contre-attaque. Et donc, on va voir comment ils vont se maîtriser l'un et l'autre, comment ils vont jouer. Et je pense que la différence sera celui qui va faire le moins de pertes de balles, celui qui va assurer le rebond défensif, celui qui va choisir les bons tirs et pas de précipitation. Et bien sûr, ce sera le coach qui sera faire les ajustements. D'un côté, José Neto pour le Pétrole de Luanda. Et de l'autre côté, Mojak Perichik pour l'Union monastérienne sportive, monastérienne, Sedina.
Oui, et je pense que ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces deux équipes confirment la tendance de l'année dernière. C'est qu'en basketball, c'est la performance qui est tout le temps récompensée, parce que l'année dernière on a vu le Zamalek et l'US Monastir en finale, on en avait parlé. C'est des clubs qui sont dans des environnements où pratiquement tout est professionnalisé, il y a les investissements nécessaires pour avoir les meilleurs joueurs sur plusieurs années, il y a les infrastructures nécessaires également, et surtout il y a la formation et l'accompagnement. Cette année également, on retrouve l'une des deux équipes en finale et l'autre équipe qu'il va rencontrer est dans le même modèle. Donc ces deux équipes-là doivent inspirer les autres équipes africaines qui participent à cette Basketball Africa League-là pour mieux s'organiser, mieux se structurer. Et comme tu l'as dit également, je pense que c'est l'équipe qui sera le plus fidèle à son basketball tout en gardant une certaine concentration pour justement éviter les pertes de balles dont tu parles, qui pourra le mieux s'en sortir.
Tout à fait. En tout cas, on peut dire que cette ligue commence à nourrir des envies dans plusieurs pays africains. J'espère que je pourrai avoir le directeur exécutif de FIBA Afrique, Dr Billet, à la mi-temps pour une interview. Justement, je lui poserai la question, Sedina, de savoir, après cette deuxième édition, quel est l'impact de la balle dans les championnats africains. Et probablement, je te laisserai peut-être lui poser une autre question, mais je te confirmerai cela. Je vais voir comment ça peut se faire. J'espère qu'il le pourra, parce qu'il y a des fois des problèmes de communication avec Kigali. Donc, on verra ça tout à l'heure. Mais dans 30 secondes, on va aller dans le générique de cette compétition, puisqu'il sera midi. Et puis, on va revenir pour la présentation des équipes pour 2 minutes. Et puis, on ira dans le match, Célina. Et on peut voir déjà que cette salle est beaucoup plus rempli que d'habitude, et donc c'est une bonne chose, et j'espère qu'ils ont offert des billets, et ils auraient dû la remplir avec plein de jeunes, et ainsi de suite. Mais à tout de suite, Célina, pour après le générique. Rebonjour à tous nos auditeurs de la Voix de l'Amérique, qu'ils soient à Dakar, à Lomé, à Bamako, à Cotonou, à Bangui, à N'Djamena, à Kinshasa, à Lubumbashi, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, à Abidjan. Nous vous disons bonjour, Eugène Pewa Pelema, depuis le studio de la Voix de l'Amérique ici à Washington DC, avec Célina Abegaïke, lui à Dakar, qui est un journaliste sportif. Nous sommes heureux de vous avoir pour cette finale de la deuxième édition. Les deux équipes vont être présentées dans quelques minutes, que ce soit les Petro de Luanda, puis l'Union sportive monastirienne. Célina, nous espérons avoir une grande démonstration de basket aujourd'hui, que ces équipes vont s'appliquer. Et comme je le disais aussi tout à l'heure, on peut voir que la salle est beaucoup plus remplie que d'habitude, alors que l'équipe rwandaise ne joue pas la finale aujourd'hui.
C'est la passion du basketball. Je pense que c'est la passion du basketball parce que dans tous les pays africains, on retrouve des gens qui, au-delà des équipes, sont passionnés. Discipline qui est le basketball, et comme tu l'as dit, j'espère également qu'on aura une grande rencontre de basketball et que les équipes ne vont pas trop subir la pression de l'enjeu et qu'ils vont véritablement prendre du plaisir et nous donner du plaisir.
Tout à fait. Je vais aussi présenter les arbitres de cette journée. Il y a Hortensia Sanchez Carizales, c'est une bonne chose, une dame va prendre part à cette grande finale. Wael Ibrahim Mostafa, deux femmes, Marie-Leslie Chérubin aussi, sera dans cette finale. Et le commissaire du match, l'accoutumé Joy Olinga, sera là. Les coachs Miodrak Perisic de Monastir avec son assistant Zaïd Kishou. Et de l'autre côté, le coach José Neto avec son assistant Jesus Gutiérrez Fernandez vont diriger les destinées de ces deux équipes. Actuellement, on voit le stade est complètement éteint et tout le monde allume. Il y a des petites lumières qu'on voit. C'est peut-être pour dire que l'Afrique, c'est la finale. Donc, on va nous présenter les étoiles. Il y a une danse. Je pense qu'il y a une démonstration de danse pour l'instant. Je ne sais pas si le match va commencer à l'heure. Et on peut voir une danse rwandaise qu'on a l'habitude de voir. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais je suppose que c'est peut-être pour annoncer l'arrivée du trophée. Et ce trophée qui va être remis, j'ai deviné juste, il prend le trophée et il va probablement le présenter justement au public qui est ici très nombreux, Sedina, dans cette salle.
Oui, on voit que la salle est pratiquement remplie de partout. Et comme tu le disais tantôt, c'est une bonne chose pour le spectacle parce que
Sedina, on va écouter un peu ce qui se dit, si tu veux, on suit les images avec le son, comme ça on va revenir rapidement après. Célina, on peut voir justement cette danse traditionnelle rwandaise qui est en train d'être faite avec la présentation du trophée. Et c'est très beau à voir les couleurs, comme d'habitude, les belles couleurs d'Afrique. Et c'est aussi, l'Afrique a quand même donné beaucoup de chaleur au sport. On a pu voir, même au football à l'époque, en 1990, quand Roger Milla a démarré le style de danse après avoir marqué un but. Et tout le monde maintenant fait quelque chose d'extraordinaire. Et donc, c'est cette chaleur africaine, humaine, qui existe aussi au Rwanda. et donc qui est bien sûr fait partie de cette fête du basketball africain avec cette deuxième édition, la finale de la balle qui se joue dans ce pays. Donc on va essayer de suivre en couleur. Si Célina, tu as des petits commentaires à faire, ne te gêne pas, tu peux parler aussi.
Je pense que c'est important de
tout à fait. Sois près de ton micro parce qu'on t'entend pas trop bien. Ben, Célina a des petits problèmes techniques, donc je vais prendre le. Comment ça le.
Non, juste là.
Vas-y, tu peux parler. Hein.
Je pensais que tu laissais l'ambiance.
Oui, oui, non, on écoute l'ambiance, mais à la fois on peut aussi commenter. On peut voir là les gars qui tapent le tambour avec leur bâton. C'est quelque chose de différent. D'ailleurs, j'ai souvent vu ce genre de danse avec. Je vois, ils soufflent dans des cornes aussi. La danse, je la connais, mais c'est le style de musique qui est un peu différent. J'espère aussi que ça va pas déconcentrer les joueurs, parce que peut-être les joueurs là se sont bien échauffés et maintenant ça casse un peu le rythme. Mais c'est important. On voit les drapeaux de toutes les équipes qui ont pris part à cette compétition. Je suppose que ce sont les derniers, ceux qui ont joué les quarts de finale, puisqu'on peut pas amener le drapeau de toutes les équipes qui ont fait le début du tournoi. On fait honneur à ceux qui ont pu atteindre le plus haut niveau, et c'est bien de faire ça. Ça permettra aux autres de dire que la prochaine fois, moi aussi, je vais arriver parmi les 8 pour jouer la quart de finale, les quarts de finale.
Oui, et comme je disais tantôt, c'est toujours important de montrer la culture africaine parce qu'elle est très belle. À Dakar, on avait ouvert la Basketball Africa League avec des tambours, avec le célèbre tambour major Béjé Faye. Et là aussi, on ferme avec des tambours. Et je pense que c'est important, au-delà du sport, de montrer la beauté de la culture africaine.
Tout à fait. Mais là, on va partir dans le direct avec la présentation des deux équipes. Et puis, toi et moi, on se retrouvera à la mi-temps pour faire le...
You have 74.
Présentation de cette équipe de Monastir qui encore une fois a fait une saison extrêmement convaincante, extrêmement complète avec beaucoup de talent. Ils sont peut-être un petit peu moins forts sur le papier cette année, mais ils sont tellement plus forts collectivement.
On avait cru qu'avec le petit changement, comme vous venez de le dire, que cette équipe de Monastir est beaucoup plus faible. Eh bien non, parce que Slimane et surtout l'explosion de Layani change tout ça. En fait, ils ont un basketball très très moderne avec ces deux forwards qui peuvent jouer à l'intérieur, jouer à l'extérieur et surtout qui courent très très vite en contre-attaque.
Ce 5 majeur, bien sûr, il n'y aura pas de surprise. Comme d'habitude, on va retrouver Julius Cole, comme d'habitude, dans ces playoffs. Julius Cole Junior ici à l'image. Michael Dixon qui a, oh là là, un profil de MVP, pourquoi pas, en fonction de son match aujourd'hui. Slimane, bien sûr, et la Firas Layani et à terme Majok. Un 5 très compact, très complet, très polyvalent, on le rappelle. Mais attention, sur le banc, il y a aussi du monde. On va désormais se tourner vers le Petro de Luanda. Ce Petro de Luanda cette saison, c'était de faire mieux que l'an passé. Ils ont déjà fait mieux puisque l'an dernier ils avaient terminé 3e. Ils sont désormais en finale, premier ou deuxième. À mon avis, ils ne se satisferont pas d'une deuxième place. Cette équipe du Petro de Luanda a brillamment passé tous les obstacles. Ils n'ont qu'une défaite au compteur, c'était en saison régulière.
contre Zamalek dans un match qu'ils avaient un petit peu gâché, notamment à 3 points ce 5 majeur et également avec beaucoup de talent. Carlos Morais et la Gerson Gonçalves. Bref, c'est aussi une équipe très très impressionnante, un collectif peut-être même encore supérieur à Monastir. Sur le plan athlétique, il y a du monde à l'intérieur. C'est polyvalent, je suis essoufflé. Il y a beaucoup trop de choses à dire, je suis essoufflé.
Comme on dit communément, c'est du lourd du côté de Petro, coaché par le coach
Denayer,
bien sûr. Alors, il faut parler de Dundao qui a été exceptionnel pendant tous ces playoffs, non seulement en défense, mais aussi derrière la ligne à 3 points. Et puis, vous l'avez dit, en fait, moi, je trouve que l'arrivée de Gakou ramène quelque chose d'exceptionnel, de la toughness. Ils sont extrêmement physiques au rebond. Et attention, ils gardent bien sûr la taille avec Moreira et Pedro à l'intérieur.
Alors, j'ai parlé un peu avec le coach Nieto pour le féliciter, le coach de la saison. Et je lui ai demandé comment il se sentait avant cette finale. Il m'avait déjà répondu ça il y a quelques jours. J'ai fait mon job aux joueurs de faire le leur.
Bien sûr, ça sera peut-être un match de coach aujourd'hui entre Piotrek Perisic et bien sûr José Neto. Il y aura beaucoup d'ajustements à faire. On sait que ça, dans ces finales, parfois, c'est un peu étriqué, un peu fermé. Et ça se joue probablement, souvent, sur les temps morts. Le deuxième 5, hein, bien sûr, celui de Petro de Luanda avec peut-être une surprise ou pas d'ailleurs. C'est Johnny Pedro qui est dans le 5. Parfois, c'est Yannick Moreira. Aujourd'hui, c'est Johnny Pedro.
J'aime bien ça.
Quand c'est Pedro, c'est défensif. Quand c'est Moreira, c'est plutôt offensif. On peut résumer à ça.
J'aime beaucoup parce que Moreira, pour moi, depuis le début des playoffs, il n'a pas été à 100% offensivement. Un petit peu trop relax. Et défensivement, aujourd'hui, ils vont faire face au plus gros morceau à terre Majoc. 12-13 points de moyenne, 12 rebonds, 2 contre et demi par match. Ils vont devoir tag team, ça veut dire faire des changements sur lui parce qu'il y aura beaucoup de présence, bien sûr, de la part de Majoc dans la raquette.
Et bien sûr, on aura des duels partout, à tous les postes, et notamment un duel à distance entre Dixon et Carlos Morais. Attention, parce que de l'autre côté, le petit Chidé, le petit, qui par la taille, mais oui, pas grand par le talent, Chidé Dundao aura encore une fois un rôle très important, celui qui a aussi un petite étiquette de MVP, pourquoi pas aujourd'hui. Ils sont plusieurs, attention, hein, de chaque côté. On rappelle que le titre de MVP sera forcément décerné à quelqu'un de l'équipe vainqueur automatiquement.
J'adore.
Pourquoi pas Slimane? Pourquoi pas
Slimane? J'adore, mais bien sûr, j'adore. Un petit peu old school, comme du bon temps de la NBA. On sait que le MVP sort du joueur de l'équipe de la meilleure saison. Le MVP doit être ici, c'est celui qui a amené son équipe. Vous avez dit, il y a 2-3 joueurs qui ont très très bien joué. On peut bien sûr parler de Dundao, on peut bien sûr parler de Slimane de l'autre côté. Ce sont des joueurs qui ont vraiment tiré le basketball. Et bien sûr là, le All-Star des All-Stars pour le basketball africain.
On a plein de MVP dans les tribunes. On a vu bien sûr Yann Maimi, il y a Joachim Noah, il y a Dikembe Mutombo, il y a Marte et tout, ils sont très nombreux.
DJ Benga aussi, DJ Benga du Congo.
Et quelques joueurs de foot également. On a aperçu Ludovic Joly, l'ancien joueur du FC Barcelone.
DJ Benga là, qui est présent.
DJ Benga.
Obinna Ekezi, qui a joué à Maryland, qui a joué aussi d'origine nigériane, qui a bien sûr joué en NBA.
Et la Diouf, faut pas oublier.
Absolument. Bah, c'est the place to be aujourd'hui.
Ah ben écoutez, vous avez vu là, il y a des sapeurs hein, ici. On a... Et après moi et Malik, on sait ce qui va se passer. Hein.
On est battu à plat de couture. Si même le Congolais que vous êtes s'incline, c'est qu'on est battu à plat de couture.
J'ai déjà mis la glace sur les genoux.
Il y a des sourires pour l'instant de chaque côté. Et à mon avis, ça va commencer à se crisper, se fermer. Quand le tip-off sera lancé de cette partie, de cette finale, la deuxième dans l'histoire.
Juste vous donner le trio arbitral. Donc on aura Madame Sanchez Carizares G-League du Mexique, Wael Mustafa d'Égypte et Leslie Chéribin d'Île Maurice.
Le premier duel opposera, comme souvent, les deux pivots, Inter Majoc et Johnny Pedro. Ça va être aussi l'un des duels à suivre dans cette partie, les deux intérieurs des deux finalistes. Il faudra également suivre Aboubakar Gakou, hein, qui a été exceptionnel tout au long de la saison et qui lui aussi peut être vraiment facteur X de cette partie. Julius Cole Junior,
mais ils sont tous. Vous avez tout à fait raison. Et il y a deux planifications. Il y a Cole Junior qui n'a pas de garçon, même s'il a bien joué le dernier match. Et puis de l'autre côté, Matthews, qu'on n'a pas beaucoup vu jouer, mais qui a bien joué aussi.
Et c'est parti dans cette deuxième finale de l'histoire de la basketball africaine avec Julius Cole tout de suite qui va attaquer cette défense du Petro de Luanda. Le ballon va être conservé par l'US Monastir. On parle beaucoup des starters, mais ça peut aussi venir du banc. Hein. Aujourd'hui, le plus profond sera sûrement
celui qui l'emportera, à moins que Slimane fasse la différence tout de suite. Il marque les premiers points de son équipe sur la lancée de sa demi-finale exceptionnelle.
Ouais, et depuis quelques matchs, il profite vraiment de sa taille à cette position numéro 3. Il n'y a personne qui fait 2m5 ici. Vous l'avez vu poster et prendre son shot sans hésitation.
Ouh, la bonne passe, Pedro ne peut pas terminer. Slimane qui l'a empêché de pouvoir monter calmement, tranquillement.
Il ne s'attendait pas du tout à cette passe d'Aboubakar.
Kira Slayani, qui aura un match peut-être plus intéressant face à Gakou pour lui. Lui, on sait qu'il adore jouer sur sa vitesse. Et le poids de Diogo et de Marboud en demi-finale, c'était pas forcément le match préféré de Kira Slayani.
Mais là, avec Gakou, ça sera autre chose.
Et le contre de Michael Dixon. Gerson Gonçalves, il a anticipé la passe, hein, Majok. Il sera sanctionné.
Et attention, c'est pas parce que vous avez Majok à l'intérieur qui peut contrôler au niveau du compte et intimider qu'il faut se laisser battre, parce qu'il va se retrouver dans des situations en 2 contre 1 où il pourrait faire des petites fautes et ça pourrait un petit peu changer la philosophie du match.
Radon Slimane très court sur son premier shoot à 3 points. Carlos Moraes, dont on attend forcément beaucoup. À 3 points, Carlos Moraes dedans pour le Petro de Luanda qui
ils
prend l'avantage.
Ils se sont levés comme un seul homme, les joueurs du banc du Petro. Et même le coach est devenu supporter. Et regardez-le, il est sur le parquet.
Il est au milieu du terrain.
Le coach Nieto est sur le parquet, messieurs, dames.
Dixon. Oh, ça c'est un de ses chutes. On sait que son mid-range game est absolument exceptionnel. Le shoot était à 2 points, bien entendu. Les premiers points pour Michael Dixon. On a déjà ce duel entre Moraes et Dixon dans ses premières minutes.
C'est un peu plus calme du côté de Perisic.
Oh, tout tombe dedans pour l'instant. Le step back de Gerson Gonçalves pour répondre à Dixon.
Et jusqu'à maintenant, dans les gros matchs, on a plutôt eu des matchs défensifs. C'est la première fois que dans les 2 premières minutes, on sent les deux équipes capables de trouver leurs joueurs offensifs.
Il avait envie de participer à la fête, Julius Cole Junior, qui a été très bon en première mi-temps, demi-finale. Lui qui fait un troisième passage à Monastir, après être passé en Tunisie en 2014-2015, puis ensuite en 2017. Il connaît beaucoup de ses partenaires, hein, même si ce n'est que son troisième match cette saison.
Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le match-up entre Dixon et Dundao, c'est quelque chose, hein, parce que chaque fois qu'il a le ballon, il pourra jouer, mais quand il le lâche, Dundao, lui, ne le lâche pas.
Extra passe de Slimani pour Cole Junior, qui ne mettra pas ce shoot à 3 points. Gakou qui va remonter le ballon pour Dundao. On va accélérer le jeu côté Petro et shooter à 3 points, bien entendu, comme souvent.
C'est rapide, messieurs. C'est très, très rapide, ces shots.
Très d'intensité. Hein.
Premier. Oui, il y a beaucoup d'intensité, mais attention, attention. C'est pas le genre de shot que Dundao doit prendre à ce moment-ci du match.
Majok, il faut peut-être ressortir ou y aller seul. Et il y aura le coup de sifflet très, très dommage.
J'ai bien aimé la défense de Pedro qui avait tout d'abord avait empêché de Majok de prendre de l'espace, de pouvoir le pousser à l'intérieur. Et puis il avait gardé ses bras en l'air.
Oui, sauf qu'il a défendu en avançant. Au foot, c'est normal.
Vous avez
mais
raison.
Au basket, pas du tout.
Ouais. Gakou est arrivé, ça a fait beaucoup de contact. Hein. L'un et l'autre, ça commence à faire un petit peu trop.
Joueur importantissime de ce collectif. Intermajo qui ne jouait pas cette saison avec l'équipe. Il est là juste pour la BL. On sait qu'en demi-finale, il a eu un petit peu de mal, notamment à cause des fautes de Gayaza qui avait été sorti, qui avait pris 3 fautes très rapidement. Majo qui avait un peu le capot qui fume.
Oui, il avait montré des signes de fatigue, Majo. Mais il a énormément de travail, non seulement en défense, mais aussi au rebond.
Gerson Gonçalves est passé, il va ressortir l'extra passe. Gakou, 45 degrés, très court. Le ballon est sauvé et il y aura la faute. Voilà, il y a une faute. Ah non, il sera dehors, pardon.
Ouais, sorti.
Il sera plutôt dehors.
Ils sont
assez bien, les joueurs de Monastir. Il y avait peut-être une petite faute avant le.
Ouais, sur les premières minutes, il me semble que les arbitres vont un peu laisser jouer.
Dixon face à Johnny Pedro, ça va libérer probablement Majok qui va ressortir, pas du tout finalement. Oh, il l'a attrapé, Johnny Pedro sur le poster.
Ils se sont tous levés, tous les VIP, Joachim Noah en premier, DJ Benga, ils se sont tous levés les VIP.
Vous avez raté, Malik Etienne aussi s'est levé.
Oh, quelle action pour Majok, c'est répondu par Carlos Moraes. Quel niveau dans cette finale.
Exceptionnel, exceptionnel.
J'aimerais qu'on revoie. Le voici, le ralenti. Non, ça va être le shoot à 3 points de Carlos Moraes.
Il y a photo seul, attention, avec Layani.
Faute de Layani.
Layani et Gakou qui se disent.
Et Majok.
Voilà, voilà. Regardez la prise de position, il prend son temps. La petite fin de shot. Oh là là, il vient de lui mettre une patate.
Oh là là, le poinçonnage en règle. Oh là là. Aïe, aïe, aïe.
On s'y attendait pas. Mais il a pris son temps, il a bien placé ses pieds à travers la fin de shot. Et puis la deuxième fois, il a été sans hésitation. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'intimidation.
Il a envoyé un message.
Oh là là, on a eu le malheur de dire qu'il avait monté des signes de fatigue il y a 20 secondes.
Je suis vraiment désolé, j'ai perdu mon job, ça continue.
C'était pour répondre à Jacques, effectivement.
Gakou qui ne peut pas terminer, le rebond pour Majok, il est dominant pour l'instant.
Regardez, pousse bien le ballon aussi sur cette action. Ah, attention, qu'est-ce qui s'est passé?
Ah, il y a problème de chrono.
Problème de chrono.
Alors pour revenir sur Majok, il a dit hein, je suis en mission pour mon peuple qui a souffert de la guerre, le Sud-Soudan, et puis pour les fans de l'US Monastir, parce qu'on sait que l'année dernière, ils ont eu très mal quand on a perdu en finale.
Mais là, il a bien commencé le match, j'ai bien aimé. Il prend le rebond, il est patient pour faire sa première passe, parce qu'il sait que Dundao est jamais très loin pour l'intercepter. Et vous avez vu sa remontée, deux ballons pour un big man quand même, c'est pas mal.
Exactement, exactement.
Lui qui était déjà le pivot de l'US Monastir l'an passé, qui avait un peu souffert d'ailleurs en finale. Mais il y aura par contre une photo offensive. Oui. Justement, l'écran mobile pour Inter Majok.
Ouais, je me disais qu'à un moment ou un autre, Perisic il allait dégoupiller. Ça commence.
Oui, mais c'est bien en mouvement. C'est bien en mouvement. Le problème, c'est que Kos Junior n'est pas assez agressif en physique pour ramener son homme dans cet écran. Et puis le big man voilà, est obligé d'un petit peu réadapter sa position.
Et là, il y a une faute également pour Johnny Pedro. Bien entendu, c'est rendu.
C'est compensé même.
Le coup des sorties, me semble-t-il, ça va très vite. Hein. On n'a pas trop le temps de suivre ça, mais il me semble que le coup de Johnny Pedro est sorti. Le ballon en tout cas est rendu aux Tunisiens qui viennent de réaliser le troisième doublé consécutif. Hein. Coupe championnat. Et qui se retrouve forcément là l'an prochain.
Ah, il travaille, hein. Majok qui travaille. Ah, il va peut-être avoir le petit 3 secondes parce qu'il m'a l'air avec
exactement.
Un petit peu de temps.
Exactement. Exactement.
Alors, ça, c'est un peu bizarre. Ça, c'est un peu bizarre parce qu'il a le ballon, il travaille en post-op à l'intérieur de la raquette. Il n'y a pas besoin de vous siffler.
Je suis tout à fait d'accord avec Malik, mais ça, je pense, c'est une mauvaise habitude en NBA par rapport à l'Europe. En Europe, on dit, comme il a le ballon, il a le droit de travailler.
Tant qu'il a le ballon, voilà.
Il n'est pas en situation de 3 secondes. Et si je me trompe pas, voilà. Non, vous avez tout à fait raison.
Alors qu'on a déjà demandé le changement, c'est Gakou tiens, qui va sortir. On va retrouver cette paire d'intérieur et Pedro et Moreira qu'on avait très très peu vu, pas vu du tout même en saison régulière, un petit peu en demi-finale.
On l'a vu un petit peu, mais attention, Moreira va être mis sous pression parce que si l'ANE attaque en ligne droite, ça va être compliqué.
Ouh, attention, il y aura la faute sur Carlos Moraes. Moraes d'ailleurs qui se plaignait à l'arbitre Leslie Chérubin il y a quelques instants que Slimane parle beaucoup. Ils se connaissent depuis longtemps, je pense que c'est pas une surprise. Hein.
Oh ben ça. Parler beaucoup, ça le connaît, Slimane. Il parle français, il parle anglais, et puis quand c'est compliqué, il met de l'arabe dedans.
Oui, et puis quand on trash talk, on sait, on est. Voilà, on a toutes les langues universelles du monde.
Bah oui, non, bien sûr, bien sûr.
Parfois, même quand vous ne comprenez pas la langue, par l'intonation, vous savez si on vous a insulté ou pas.
On le retrouve en tout cas, Carlos Moraes sur la ligne de lancer franc, pardon. Déjà deux réussites de longue distance pour lui. Et il fait 0 sur 2 par contre. Alors ils sont rentrés trop tôt dans la peinture, me semble-t-il.
Il va falloir que Majok, Dixon, tout cela reste concentré. Il commence déjà à se plaindre beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'arbitrage.
Et il fait attention à l'arbitrage de ne pas faire le match non plus. Hein. Je sais que c'est pas facile, mais on a deux fautes offensives pour des écrans qui ont été mal placés. On a maintenant la première fois qu'on voit depuis les playoffs justement cette faute au rebond.
Et malheureusement, ça coûte un point. Finalement, il fait 1 sur 2. Et regardez encore une fois Dundao, toujours aussi présent. Lui qui est le meilleur intercepteur de la Ligue cette saison.
Et je comprends pas pourquoi on s'efforce toujours d'aller contre Dundao. C'est le meilleur intercepteur. Avec sa taille et son poids, c'est l'un des meilleurs athlètes qu'on a ici à la Bahia. Pourquoi est-ce que Kos Junior ne peut pas remonter le ballon? Juste pour s'assurer de ne pas faire face à probablement le meilleur défenseur de la balle.
Bien joué, voilà, on l'a dit. Moreira.
Attention avec Moreira sur le terrain. S'il ne joue pas en défense, ça risque d'être un fameux point faible.
Là, je suis d'accord avec vous, Jacques, parce qu'il est resté tel un plomb.
Oui, Moreira, il manque d'intensité défensive et je ne pense pas qu'il ait le jeu de jambes.
Carlos Moura, il s'en échec. Mais c'est, on le disait tout à l'heure, c'est vrai que le match-up est beaucoup plus favorable pour Firas Layani aujourd'hui. À voir que ce soit Moreira ou Gakou. Quand on connaît sa mobilité, sa capacité de monter rapidement au dunk aussi. Hein, un des meilleurs dunkers.
Oh, belle passe. Attention, très belle passe.
Dixon. À 3 points face à Dundao. Oh, encore une fois. Une fois à droite, une fois à gauche pour l'Américain.
Je ne sais pas pour qui est Joachim Noah, mais franchement, à chaque panier de Monastir, il est en extase.
Marché.
Marché, exactement. Oh, bien là vu. Vous pourriez être aggravé, mon cher Jacques. Ça, ça fait 12 partout.
C'est très très difficile ces, ces moments-là. Là, on dirait qu'il y avait une petite touchette sur son coude. Mais de l'autre côté, quand un big man fait un mouvement, il n'a pas encore gagné d'espace, je pense pas qu'on devrait l'appeler.
12 partout dans ce premier quart-temps. Pour l'instant, le match est très tendu. Il y a beaucoup de suspense.
Premier temps mort demandé par cette équipe de Petro de Luanda. Il y a des ajustements à faire. On a vu tout de coup Dixon de l'équipe du Monastir qui a planté un 3 points suivi d'un marché qui a été signalé sur Moreira. Et donc, je pense que le coach veut justement appuyer, je pense, sur les petits détails pour que leur équipe, son équipe probablement ne tombe pas dans l'euphorie quand ils marquent des points, mais qu'ils puissent jouer avec un peu plus de contrôle et de maturité pour pouvoir justement produire en attaque, mais aussi produire en défense. Et on peut voir dans cette équipe de Petro Luanda, Moreira fait son entrée à la place de John Petro et il est d'une certaine manière un poids sur le plan défensif parce qu'il n'est pas très très défensif et on a pu voir le joueur tunisien prendre l'avantage sur lui, l'attaquer et aller en lay-up. Et donc ça, ça va être un challenge pour cette équipe d'Angola pour justement éviter ce maillon faible de leurs 5 en jeu. Pour l'instant, on voit quand même des fautes qui sont sifflées, qui auraient pu être évitées ou des violations qui n'étaient pas nécessaires parce que le basketball est devenu quand même un sport physique et il va falloir qu'on laisse jouer justement ces équipes-là et qu'elles donnent le mieux du possible. Donc le score pour le moment est de 12 à 12 entre le Petro de Luanda et le Monastir. 3 fautes collectives pour Monastir, 2 pour Luanda, Petro. Et donc pour le moment, ils ne sont pas dans la sanction. Et à 4, il reste 4 minutes 18 secondes dans ce carton. On repart dans le direct.
Et permettre justement à ces joueurs de pouvoir attaquer des close-out.
Ouais, bien vu Jacques, c'est ce que Perisic a redit sur le temps mort. Emmener le ballon en dessous, utiliser Majok, utiliser Firas. Firas, là il y a lui.
Attention Perisic hein, qui est déjà à la limite de la faute technique.
Oui.
Ah, mais c'est dur de voir des joueurs professionnels qui font des marchés et dans des situations qui sont pas spécialement très très offensives. Donc...
Vous préférez qu'on laisse jouer, c'est ça?
Mais...
Oui, à partir du moment où il ne prend pas avantage de ce marché,
voilà,
autant laisser jouer.
On est en synergie ce soir, Malik.
Bah, comme d'habitude.
C'est dommage d'avoir entendu le dernier match, messieurs. Mais...
Méfiez-vous, Étienne, je risque de dire une méchanceté.
Gonçalves, en échec en tout cas sur ce shoot à 3 points, le rebond offensif. Moreira, qui va jouer face à Termajoc.
Dernier idée de défend par cet
ah oh, le ballon était en phase descendante, bien sûr. Le panier va être accordé.
Et c'est bien de mettre de la pression sur Majok, parce qu'il a déjà une faute, la deuxième faute à ce moment-ci, c'est pas ce qu'on veut faire.
Ouais, les deux intérieurs ont une faute hein, pour l'instant côté Monastir. Le voici le deuxième membre de ce secteur intérieur, Firas Layani.
Oui, la reprise de
Sima qui va attaquer Pedro. Firas Layani dans le corner à 3 points, très court, on l'a vu tout de suite, le rebond pour Pedro. On accélère le rythme, Dundao. Gonçalves qui fait sauter Layani. Oh, c'est brouillon, le ballon est perdu par le Petro.
Oh, regardez, il est remonté, Firas Layani, remonté comme un coucou.
Écoutez, Firas Layani a déjà joué plus aujourd'hui que dans la finale de l'an dernier. Il n'avait joué que 3 minutes 30 par là. Et on en a beaucoup parlé en demi-finale, on en parle à chaque fois. C'est une frustration dans sa carrière.
En plus, il n'a pas à défendre sur quelqu'un de 116 kilos.
En plus,
suivez mon regard.
En plus. Et la faute à 3 points sur Michael Dixon, provoquée par Gerson Gonçalves.
Alors sur le banc, Il y a quelqu'un qui est peut-être en phase de devenir deux fois vainqueur de la BAL avec deux clubs différents.
Exactement.
C'est Souleymane Diabaté qui attend son heure. Il est impassible, il est calme sur le banc.
Il est le seul, effectivement, à pouvoir réaliser le back-to-back. Lui qui avait fait tant de mal à Monastir l'an dernier en finale. Avant de perdre d'ailleurs en finale de l'Afrobasket contre certains de ses partenaires actuels. Ils sont trois à être champions d'Afrique avec la Tunisie l'été dernier.
Il a fait très mal défensivement aussi contre son ancien club.
Ah oui, oui, absolument. sans être brillant, Jacques, offensivement en demi-finale, il a réussi à être impactant.
Oui, parce que c'est un joueur qui connaît très bien son rôle. Il est capable de se mettre en création, il va monter sur le terrain tout de suite. Sa défense est toujours exceptionnelle. Vous savez, il se met bas, il empêche à son adversaire de changer de direction avec des crossovers. Il est extrêmement bon pour se mettre dans les lignes de passe. Voilà, c'est un joueur avec points ou sans points qui va vous ramener quelque chose.
Mokhtar Gayaz a également s'apprête à arriver 2 sur 3 pour Michael Dixon. 14 partout. Cipriano pour Moraes.
Ouais, un petit match-up là à l'intérieur. Est-ce qu'on va l'aider? Ah, il aurait dû aller Belzing, attention Majok.
On ressort, 9 secondes sur la possession. Carlos Moraes, le step back, le move du vétéran de cette équipe angolaise.
Ah, il a mis la pression directe hein, sur Solo Diabaté.
Domingos hein, également sur le parquet côté Petro. Un peu moins vu en playoff cette saison.
Alors ça, on va le revoir assez souvent dans ce match. Hein. Majok en post-op.
Oh, dommage.
Ah, il a pris sous 7.
C'est move hein, pourtant.
Ouais, c'était bien joué, mais il s'est laissé pousser. L'arbitre n'a pas sifflé.
Johnny Pedro, attention, il faut être attentif.
Non ! Ne
vous enflammez pas, Jacques. Ne vous enflammez pas.
Excusez-moi, vous comprendrez mes émotions, aussi. Messieurs. Mais là, non. Parce que là, Majok, tout de l'autre côté, on l'a poussé, on n'a pas appelé faute. Et voilà, logiquement, de ce côté-là, on applique la même chose.
Alors, on va jouer grand aussi, côté tunisien, parce qu'on a et Majok et Gayaza sur le parquet en même temps. C'est arrivé très, très, très peu de fois cette saison.
Et Slimane, hein, qui a 2 cm de plus que Gayaza.
Oui, absolument. Enfin,
Slimane, belle passe en backdoor.
Dommage, la faute sur Michael Dixon. C'est vrai. Mais bon, Slimane, quand il est sur le parquet, c'est toujours un match-up.
Un ailier comme Slimane.
Ah oui.
C'est un vrai luxe.
C'est hallucinant. Et surtout, à cet âge-là, d'être encore capable d'être aussi dominant. Il a clairement fait gagner Monastir en demi-finale. On ne va pas avoir peur de le dire, celui qui est surnommé le phénomène en Tunisie. Et également Seka. Alors l'accent est complètement moisi, mais c'est pas grave. L'intention est bonne. C'est dire les rails du train. Parce que paraît-il, quand il reçoit le ballon, mais c'est même pas paraît-il, il fonce tout droit. Il donne une passe pour aller dunker.
Oui, mais ça fait partie du scouting. Il y a des joueurs comme ça. J'avais dit pour Layani en ligne droite, il attaque en ligne droite. Clairement des changements d'élection. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de connaître en fait qui sont les formateurs de Slimane. Parce que pour avoir aujourd'hui un joueur de plus de 40 ans qui joue à cette position de 3, moderne, c'est qu'il a eu des essais en formateur.
Je sais pas ce qu'il boit, mais j'en veux aussi. Oui. C'est ce qu'avait dit Popovic concernant Ginobili. Exactement. Exactement.
En tout cas, Yone Pedro, il est sorti très, très fatigué. Et Majok, deuxième faute, il me semble.
Elle n'est pas sur Solo.
Non, pour moi, elle est sur Majok. Il y a la petite poussette quand il essaye de regarder. La petite poussette là voilà. En plus, il a la main gauche dans le dos. Il doit faire attention, Majok, sa deuxième faute.
Il va être coaché là tout de suite.
Ouais, on va rappeler Pierre Zlayin tout de suite.
Ah, cette fameuse deuxième faute.
Ouais. Il reste 2 minutes dans le premier quart-temps. Il ne faut pas prendre de risque. Parce que s'il prend une troisième maintenant,
non,
ça change toute la phase du match.
Ah oui, toute la première mi-temps, vous l'oubliez avec des fautes. J'aurais cru que Gayaza en fait allait prendre le meilleur joueur au poste qui est Moreira. Voilà
ce qui se passe. Ils vous ont entendu ça.
Voilà.
Parce que la physionomie du match de toute façon s'y prête.
Oui, tout à fait.
Gakou qui a changé la trajectoire de son tir pour éviter le contre, le ballon de contre-attaque pour l'US Monastir.
Belle passe.
Souleymane Diabaté à 3 points. Ça ne rentre pas dedans, ça roule sur le cercle. Pas de réussite pour l'instant pour l'Ivoirien. Oh, le ballon perdu par Domingos. Non, finalement non. Il semblait que son dribble avait été un petit peu haut. Hein.
Mais il a arraché le ballon. Donc le ballon a pu rebondir sans qu'il ait la main en dessous du ballon, ce qui aurait été une portée de balle et ce qui a permis de continuer son
tir. Il était haut, il était très long.
Ouais, ils ont tiré bien. Cipriano à 3 points. Bah, tiens, duel de vétérans. On a 80 ans là, sur ce duel.
82
même, absolument. Deux joueurs qui ont tout gagné hein, de leur carrière.
Ouais, non, il doit passer le ballon, Cipriano. Il n'y a pas d'action là.
Il est quand même passé Cipriano et ouh, il est très court. Et ça fait marrer Siman. Regardez, oui. Regardez le petit nom de la tête, ça fait rigoler Cipriano aussi. Voilà, elle est belle cette image, elle est superbe.
C'est une très très belle image.
Elle est super cette image. Profitons hein, pendant qu'on peut encore avoir ces joueurs-là sur le terrain. Firenze qui va ressortir. Gayaza sur le Diabaté. On va retrouver Gayaza, probablement la passe difficile.
Ouais, le problème dans le spacing. D'un côté, du côté de Petro, je trouve qu'on a du problème à faire bouger le ballon. Et de l'autre côté, du côté de Monastir, on n'a pas les bons spacing.
Il va rester qu'une seconde et 6 dixièmes sur la possession. C'est largement assez hein, pour déclencher. Tout petit score hein, pour l'instant dans ce premier quart temps, 14 à 16.
On avait commencé très très bien dans les 2-3 premières minutes et puis de coup ça s'est calmé.
Et alors. Oui, c'est le ballon est rendu à Petro, ça me semble logique.
Et je m'apprêtais à poser la question à Jacques quand il reste 1-6. Pourquoi on fait engager le meilleur shooter de l'équipe?
Bah écoutez, quand il reste 1-6, vous avez raison, on va chercher un lob, on va jouer sur écran. Etc. Là c'était un petit peu brouillon.
Gayaza qui en galère, voilà, encore une fois.
Ne pas essayer l'interception. Il fait son mouvement, il est plus élancé que vous, c'est-à-dire que le ballon est assez loin de son corps. Si vous commencez à devoir vous déplacer derrière lui pour essayer de lui piquer le ballon de 1, vous perdez votre position et 2, vous allez avoir le malheur de toucher son coup probablement.
Entrée en jeu d'Oussama Marnaoui, lui qui n'a pas disputé le quart de finale, il avait été placé en protocole Covid. Il a rejoint l'équipe alors que son équipe avait remporté son quart de finale contre les Tigers de Cape Town avec une très belle marge, hein. Plus de 40 points d'avance.
Il est international tunisien depuis les U16.
Absolument, il est champion d'Afrique également cet été. L'un des trois, je le disais, Slimane Gayaza. Et donc Marnaoui, Firas Layani n'avait pas passé le cut malheureusement pour lui, il avait été coupé avant le début de la compétition.
Et Slimane avait déjà remporté ce trophée qu'on appelait à l'époque la Coupe d'Afrique des clubs champions avec l'étoile du Sahel en 2011.
Ouais, il y a 11 ans. Il y a 11 ans, c'était déjà un vétéran.
Et Malik Dao l'avait remporté, mais encore plus longtemps.
Oh là, ça c'est un temps que les moins de 20 ans. Bon bref, vous connaissez la chanson.
Non, je sais, je suis un fossile.
Vous avez tout pour reste, mon cher Malik. Allez, 16 partout. À quelques instants de la fin de ce premier quart-temps, le bras de fer continue. Firenze Layani qui attaque Gakpo.
Changement de direction. Oh, dommage.
Ouh, c'est dommage, la finition est manquée pour Layani. Oh, quelle explosivité hein, sur son premier pas.
Ouais. Il a bien été raccourcir la distance entre lui et son défenseur. Il a bien explosé avec un bon changement de direction en plus.
Dominique Go, ça la passe. Et finalement, pour Cipriano.
Dur.
Attention, Marnaoui, il n'avait pas tenté l'interception comme vous disiez.
Difficile de faire jouer Domingos parce qu'il a très très mal shooté à 3 points pendant toute cette saison-ci, donc il n'est pas vraiment défendu quand on est en demi-terrain. Et puis parfois je trouve que sa qualité de passe sur des pick and roll n'est pas ce qu'elle devrait être pour un joueur qui joue à sa position.
En saison régulière, il était à peine 17% de réussite à 3 points.
Et par rapport à sa taille, si vous ne shootez pas un petit peu à 3 points, comme Doumdoua l'a très bien fait, vous commencez à être un petit poids pour votre équipe. Hein.
Je vous ai coupé, Malik.
Layani qui essayait de rentrer dans la tête de Madame Canizares. Le problème, c'est que la Mexicaine, elle ne s'en laisse pas compter.
Oh, gros caractère, hein, cet arbitre. On avait découvert lors de la saison régulière. Et Moreira qui va manquer le second. Le ballon récupéré par Layani, il va rester 7 secondes la presse
tout terrain.
C'est l'équipe du Petro sous les mains de Diabaté.
Wow,
et ça va rentrer à quelques instants de la fin de ce premier quart-temps pour donner l'avantage à Monastir à l'issue des 10 premières minutes de jeu. Il n'avait pas encore marqué de points, me semble-t-il, sous les mains de Diabaté.
Eh ben, c'est la fin de ce premier quart-temps avec un match très équilibré entre les deux équipes du Petro de Luanda et de l'Union de Monastirienne. On voit ici Solo Diabaté, originaire de Côte d'Ivoire, qui joue pour cette équipe de Monastir, marquer un panier en quelques secondes en traversant le terrain. Le score est de 18 à 17. en faveur de cette équipe de Monastir. On peut voir que ces deux équipes se sont annulées d'une certaine manière. Ils ont à peu près le même style de jeu. Leur équipe, les deux équipes font du bon travail. Et je peux vous dire que c'est très intéressant, c'est très beau à voir. Et j'espère qu'ils vont nous montrer ce genre de basketball pendant tout le match. Ça garde en haleine ce public. C'est vrai qu'on n'a pas dépassé la barre des 20 points. Mais c'est déjà une bonne chose en termes d'intensité. On a pu voir deux équipes qui, sur le plan de l'intensité, ont fait vraiment du bon boulot. Et nous espérons que ça va continuer de la sorte. Disons que là, aujourd'hui, pour le moment, ces deux équipes jouent sans complexe, ne jouent pas avec de la retenue. Et quand on voit pour l'instant les statistiques, on voit au pourcentage de réussite, l'équipe du Petro de Luanda est à 31% contre 42% à cette équipe du Monastir, ce qui veut dire que l'équipe du Monastir sélectionne un peu plus ses tirs. On voit du bon boulot, on voit au niveau des deux points qui sont à 60%, à trois points ils sont à 0 sur 4, et de l'autre côté on voit une équipe du Petro, du Petro, qui est à 2 sur 7 quand on passe à 3 points, et au niveau du moins 2 sur 7 à 2 points et 3 sur 9 à 3 points. Au niveau des lancers francs, le pourcentage de réussite est de 66% pour Petro, et il est de 85% pour l'équipe de Monastir. Mais nous repartons dans le direct pour ce deuxième carton qui va démarrer dans les secondes qui suivent.
Coup d'accélérateur.
Permettez-moi de nuancer vos propos, messieurs. De là où je me trouve, les défenses sont très, très dures, très agressives. Perisic a même dû demander à Marnaoui de se calmer parce qu'il est un peu trop bouillant.
Bien sûr, c'est celui aussi qui gardera le mieux son sang-froid. Il y a encore énormément de temps. Morera au-dessus de Gayaza. Oh, le toucher pour Morera.
On sent qu'à chaque fois qu'il a le ballon, on sent qu'il y a de la tension à l'intérieur. Et qu'on met la pression sur l'US Monastir. Donc voilà, il faut continuer à le fournir à l'intérieur, qui continue à jouer, qui continue à créer des fautes.
Matthews est sur le parquet, hein. Il était déjà là sur le parquet. Il met... Oh là là, Marnaoui. Qui va perdre le ballon, la passe était...
Vous voyez la ligne droite, à un moment, il faut quand même parfois s'arrêter et utiliser, même si on a un big man, il y a un petit flotteur, un petit hook shot vite fait. Là, il met bien la pression, il monte. Gayaza est physique. En un contre un, si vous jouez à l'intérieur, mais dès que Morera s'étend avec la longueur de bras et la taille, il a un très gros avantage.
Il a déjà 7 points, Yannick Morera, lui qui n'était pas dans le starting 5, c'était Johnny Pedro. Qui a deux fautes, hein. D'ailleurs on ne l'a pas indiqué tout à l'heure, mais deux fautes pour Majok, deux fautes pour Pedro. Souci de chrono. Seulement 3 joueurs différents du Petro pour l'instant marqué des points, hein, je le disais. 7 pour Morera, 7 pour Morey, 5 pour Gonçalves. En dehors de ça, c'est un petit peu.
Dundao n'a pas. Ouais,
il n'a pas pris un shoot.
Non, si je ne me trompe pas, il a pris un shoot qui avait été contré.
Il a été contré par Dixon.
Voilà.
Et surtout, d'accord à Boubacar, il a un regard assez vide pour quelqu'un qu'on sait très, très, très concentré. Et là, il a l'impression de... Il donne l'impression, hein, d'être ailleurs. Mais bon, ça ne devrait pas durer.
Mais qui n'était pas là l'an passé, à Boubacar Gakou. Qui a bien sûr énormément renforcé cette équipe-là en étant l'un des joueurs les plus dominants, les plus réguliers également. Très très bon défenseur qui fait une partie d'ailleurs du premier 5 défensif de la saison. Accélération de Yanni.
Et le travail de Gaïa, de Gayaza dans raquette qui a fait un faux écran.
Ça sert à quelque chose d'avoir participé à la Coupe du Monde de 3 contre 3.
Domingo sera le coup de sifflet pour la faute de Souleymane Diabaté. Donc ça sera la première, il n'est pas d'accord, l'Ivoirien. On va retrouver Domingo souligne, on va revoir cette faute, on verra malheureusement pas.
On voit pas où ils sont, mais c'est dommage parce que contester c'est suffisant. Et puis vous voyez le faux écran de Gaza qui fait semblant de poster.
Ah, c'est pas un faux écran, Jacques. Hein. C'était un mur.
Ouais, oui. Mais c'est dans le jargon, on appelle ça un faux écran. On fait croire à l'arbitre qu'on continue à poster en fait et on permet à son coéquipier d'aller vers l'anneau.
Ouais, Firas Layani qui avait été un petit peu en délicatesse, mais bon, assez moyen en demi-finale. Je le disais tout à l'heure, c'était pas vraiment son match-up. Sa consigne avait été simple hein, face à la lourdeur des intérieurs de Zamalek. C'était ne sois jamais arrêté. Tu reçois le ballon, tu accélères. À chaque fois.
Mais,
et c'est vrai qu'il avait, par rapport à ça, il avait créé des espaces, il avait gêné, hein, notamment avec Diogo.
Layani, ce qui lui manque, c'est un petit peu plus de précision derrière la ligne des trois points. Et on l'a vu à un moment, il aime aller jusqu'au bout. Et parfois, le shot mi-distance a un meilleur pourcentage que le lay-up, surtout s'il y a du monde dans la raquette.
On a commencé son travail de ça, par le Coquilletto en direction des arbitres.
Coach de l'année, José Neto. Dans cette saison 2 de la Basketball Africa League de Ballon pour Souleymane Diabaté. Le Petro du Monde a repris l'avantage. Firas Layani face à Gakou. Gayaza, lui, là, le shoot à mi-distance. Et celui-ci sera un petit peu court.
Non, le ballon n'est pas sorti du poignet, comme on dit.
Domingos.
Cipriano. Un petit coup de zone de 3.
Et encore, on demande un ballon à chaque fois. Hein, il demande le ballon. Yannick Morera.
Oh, il est passé.
Il l'a battu. Et il le trash talk derrière en disant qu'il ne peut pas défendre sur lui. Pour l'instant, c'est un chantier réalisé par Yannick Morera.
Et là, sur cette action, au premier coup d'épaule, vous voyez, il gagne du territoire. Et à la fin, c'est fini parce que, comme on le sait, dès qu'il va ouvrir ses grandes pattes d'araignée, c'est terminé.
24-20 pour le Petro de Luanda dans ce deuxième quart-temps. 8 minutes au compteur.
Temps mort demandé par cette équipe du Monastir qui est menée actuellement de 24-20. Par une équipe du Pedro qui fait quand même de très très bonnes choses. On vient juste de voir un très beau mouvement offensif de Yann Morera qui a travaillé à l'intérieur, feinte un peu à la Ola Jones, bien sûr pas avec la même dextérité, mais un très beau mouvement qui a envoyé Gadaya se balader dans les gradins et il a banqué ses deux points. Là nous avons 4 points de différence entre les deux équipes. Rapidement, nous allons quand même regarder le nombre de pertes de balles. Pour le moment, cette équipe de Petro en a 4. Par contre, cette équipe de Monastir en a 5. Donc, c'est presque pareil. Ils devront essayer de faire un effort, justement, de diminuer ces pertes de balles. Au niveau des rebonds, ils en ont 11. Que des rebonds défensifs au niveau des passes décisives 4 pour cette équipe de Monastir. De l'autre côté, nous avons 2 passes décisives, 11 rebonds, dont 2 offensifs pour cette équipe du Petro qui est beaucoup plus présente au rebond puisque les grands arrivent à grappiller quelques rebonds en leur faveur. Donc on peut dire que c'est un match en tout cas qui est très intéressant. Pas de bloc en particulier du côté de Petro et il en est de l'autre côté il y a 2 blocs côté Monastir, c'est Majok. On repart dans le direct, balle pour le Monastir.
Souleymane Diabaté. Julius Cole Junior est de retour sur le parquet. Comme Slimane d'ailleurs.
Oui, on est en zone. Hâte de voir ce que Matthews va donner parce qu'il a fait des bonnes choses, je trouve.
Ouh, ça, c'est un de ses shoots. Pourtant, le rebond pour l'Inter Majok qui va pas pouvoir terminer, mais il va provoquer une faute. Il est dominant vraiment, Majok, aujourd'hui. Il est très très bien dans sa partie.
Et c'est un bon rebond, ça, de Majok qui monte. Premier rebond offensif. Regardez là. Bap. Vous voyez comme quoi. La taille de Majok est très très importante pour pouvoir justement contrer Morera et Pedro et la taille que le Petro en général.
Et si en plus il met ses lancers, c'est tout bénéf aujourd'hui pour Monastir. lui qui est le joueur qui est le plus adroit. Alors vous savez toujours que pour ces classements-là, il faut un nombre minimum de shoots pris. Effectivement, il est à 64% à 2 points. Cipriano, pour l'instant ils ont réponse à tout, le patron de Rwanda.
Il a du basket plein les mains, Olympio Cipriano. Son problème c'est l'hygiène de vie.
Et le ballon est perdu.
Ils prennent un bel avantage hein. Pour l'instant le Petro.
Et c'est le plus gros écart du match.
On a eu le jeu intérieur de Moreira, le 3 points de Cipriano.
Bien sûr, ça fait énormément plaisir au peuple angolais, une partie du peuple angolais qui est là. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il y a une discussion au centre du terrain.
On essaie de savoir si Cipriano était bien à 3 points ou à 2 points.
Ouais, je vous avoue que c'était devant nous, mais ça va trop vite un peu. Ouais,
c'est difficile à dire, ça peut jouer à rien du tout.
Il faut tout vérifier. Hein. Vous savez, les Nets ont été éliminés pour un orteil.
Oh, bah ça, il y a un orteil de 8 cm. Mais... Alors qu'on a aperçu la Diouf à côté de Djembenga notamment.
Je me demande, messieurs, je vous pose la question, quand on fait une révision comme ça, surtout d'un shot, si vous ne pourriez pas avoir un arbitre spécifique qui fait la révision et le changement pendant le cours du match, en fait.
Normalement, c'est ce qui est fait en NBA. C'est la procédure normale. Il y a quelqu'un derrière qui regarde et sur l'arrêt de jeu suivant, il y a une annonce qui est faite au micro.
Voilà. Mais qu'on ait spécifiquement quelqu'un qui s'en occupe.
Les années de Coupe du Monde ou de JO, les règlements changent, Jacques, on vous entendra.
Ouais, c'est un petit peu dommage parce que ça casse un petit peu le rythme.
Alors pendant ce temps, M. Madou Galofal, hein, le président de la BAL, qui nous fait l'honneur de nous rendre une petite visite. Alors président, j'imagine que vous êtes un homme heureux, un homme satisfait.
Absolument et totalement. Vraiment, cette salle qui est archi-pomme, un match très très serré, ce public, cette énergie, c'est l'Afrique. Voilà.
Et on vous donne aussi beaucoup beaucoup de crédit par rapport à cette année à la BAL Elevate. Où est-ce que ça peut encore aller?
Très très loin. Hier, le showcase qui va être un événement qu'on va inclure dans la programmation de nos matchs, ces jeunes de la NBA Academy qui ont vraiment démontré tout leur talent et qui vont continuer de grandir. Je pense que c'était un moyen de faire un link entre le travail qui s'est fait à NBA Africa et au niveau des académies et la plateforme que la Basketball Africa League présente pour donner à ces jeunes l'opportunité d'étaler le talent et de continuer de grandir.
Cette année, il y a eu beaucoup d'innovations. Je suis un peu pressé, mais je suis comme ça. Est-ce que l'année prochaine, on peut s'attendre encore à des choses?
Toujours notre objectif d'être meilleur. On va, dès la fin de ce match, commencer à réfléchir sur comment améliorer le projet, le produit. Beaucoup d'innovations, BAL Elevate. Et puis Baba, on a notre première mascotte, je pense que qui est en train de combler ce grand public ici de joie. Il faut attirer les jeunes, les tout jeunes, pour qu'ils observent et apprécient ce qui se fait au niveau de la Basketball Africa League. Et puis aussi cette année, on a vu beaucoup de gens qui ont voyagé d'un peu partout dans le monde, mais surtout d'un peu partout en Afrique pour venir être à Kigali pour participer à cette grosse fête du basketball africain.
Merci beaucoup Monsieur Madou Galofal. En tout cas, on vous souhaite le meilleur.
Oui, merci à vous pour votre soutien et le courage et vraiment d'apporter ce produit pour les fans à travers l'Afrique et le monde francophone. Merci.
Eh ben heureusement que mon micro était coupé pendant l'interview parce que je vous
aurais
cassé
entendu.
Les oreilles à tous sur ce poster monstrueux.
On vous a
de
entendu.
Firas Layani.
Même en interview, on vous a entendu.
Sous les mains de Diabaté, à mi-distance, et oh, il y a le coup de sifflet tardif, mais bien réel, me semble-t-il. Ah non, c'est une faute.
J'ai eu du mal à voir, c'était pas bon pour moi, donc j'ai eu du mal à voir.
Elle est sur Majoc. Elle est sur Majoc. C'est la troisième de Majoc. Ah, il y a une faute sur Diabaté, sur le bras. Attention, c'est un coup de sifflet qui peut avoir de grosses incidences. Il reste 6 minutes en première mi-temps, il a déjà 3 fautes.
Ah, il va descendre. Il doit descendre dans ces conditions-là. En sachant que Moreira est sur le terrain.
Le problème, c'est que Gayaza ne peut rien faire contre Moreira aujourd'hui, j'ai l'impression. Carlos Moraes à mi-distance. Jules Scholes qui essaie de récupérer le ballon.
Bien Slimane, plongé bien de Slimane. Le premier au sol, c'est toujours celui qui va être capable d'aller prendre le ballon.
Tel est un exemple, hein. C'est le plus âgé qui plonge.
Bien joué, oh, bien joué, Tirad Layani. On disait que c'était pas un match-up pour lui en demi-finale. Il est dominant aujourd'hui.
Ouais, face à un excellent défenseur, mais enfin, regardez, la petite fin, boum. Et puis il passe vraiment sur un centimètre carré. Quelle mission.
Il a une qualité, une vitesse de premier pas qui est incroyable. C'est pour vrai. Un joueur de sa taille.
C'est vrai. Mamli est sur le parquet.
Et si Gakou ne sait pas l'arrêter, il n'y a personne sur le pan de Petro qui peut l'arrêter.
On est d'accord. Parce que moi, Gakou, je l'ai mis dans ma first team defense, mais là, il se fait enrhumer complètement.
On l'a tous mis, je crois. Et l'action à 3 points pour Firas Layani en mission, on le disait. Lui qui avait été si frustré de louper la finale l'an passé, marché.
Il y a bien un marché. Et là, c'est quand même... Même si j'aime pas les marchés, mais celui-là était quand même flagrant.
J'ai bien aimé la réaction de Carlo qui disait « Pas de soucis. Pas de soucis, laissez-moi faire. »
En général, c'est un taiseux, hein, mais quand on le provoque, on le trouve.
Bah, allez demander à Big Nadja de la SL en quart de finale.
Ou même Zakaria Masbay.
Oui. Et là, Layani, il y a la faute sur le close-out.
Alors le problème de Layani, sur deux actions, il hésite entre dunker et faire un leurre. Va falloir se décider.
Il était quand même bien décidé il y a 2 minutes, j'ai l'impression.
Oui, il partait de loin, il n'était pas en post-op.
Absolument.
Et là, l'US Monastir qui malgré tout joue plus petit, justement avec toute sa vitesse, toute sa fluidité, met en défaut la défense de Petro.
27-26. Dans ce deuxième carton, pour l'instant, le Petro demande un... On a l'impression que le momentum est côté Monastir, mais c'est le Petro qui est devant d'un point.
C'était le Petro qui était devant de plusieurs points. C'est Monastir qui est en train de revenir dans le jeu. J'ai dit encore, étonnamment, parce qu'on a Majoc qui est descendu, on joue petit chez Monastir. Mais il y a cette fameuse confiance avec Layani, avec Slimane, on joue très très bien. Et on a du mal. Le plus gros problème pour l'instant de Petro, bien sûr, c'est de marquer, mais c'est surtout de défendre.
Alors sur le temps mort du Petro, Lionel Paolo en ancien, en doyen, qui parle à Yannick Moreira et Yannick Moreira qui baisse la tête, qui lui fait oui. J'ai compris. Voilà, c'est le droit d'aînés, ça existe encore.
Ouais, mais c'est peut-être le match de Yannick Moreira aujourd'hui. On est resté sur notre fin tout au long de la saison en se disant waouh, quelle recrue, quelle signature pour le Petro de Luanda. Mais parfois inconstant, ceci dit, il a dû partager les minutes aussi avec Joli Pedro par moment. Il est déjà à 9 points, c'est probablement la meilleure mi-temps, la première mi-temps qu'il fait.
De ses playoffs.
De ses playoffs, bien sûr, oui, de ses playoffs, bien entendu. Et surtout, il a posé énormément de problèmes à Gayaza qui ne peut pas vraiment défendre sur lui aujourd'hui. Atermajoc a déjà 3 fautes. Et c'est pas Firas Layani qui va le déranger non plus, alors qu'on revoit Layani Airlines.
Alors, Domingos, il est en colère. J'espère que c'est pas contre son coach, mais il est en train de bouder sur le banc.
Il y en a plusieurs qui sont pas contents. On a vu Oussama Marnaoui après le temps mort précédent taper dans une des chaises. Celui-ci va être manqué en revanche par Firas Layani. Un des meilleurs joueurs cette saison, sans aucune hésitation possible, de cette équipe tunisienne, lui qui était dans l'ombre l'an dernier de Marcin Ben Ramdan. C'était pas facile, c'est vrai, d'être derrière un monstre pareil. Avoir plus de responsabilités, ça l'a totalement libéré.
Alors on avait Air Firas, Layani Airways, maintenant du côté de Tunis, on l'appelle Air Tunisia.
Mais la faute de Slimane tardive, alors qu'il n'est pas d'accord, qui lève les bras, qui nous fait le ralenti de ce qu'il croit avoir fait.
Bien sûr.
pas forcément ce qu'il a fait.
J'aime bien ce que fait Morel, il va l'attaquer. On sait qu'il a dû toucher du bout des doigts. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est que ça me met en confiance. Parce que mon numéro 3 est capable de jouer en défense sur mon numéro 5. Et ça, c'est quelque chose qui est agréable. Même si pour l'instant, entre guillemets, il joue à l'intérieur, c'est mal.
Comment vous jouez alors, votre numéro 3 sur votre numéro 5?
Mais dans les match-up.
Ou le numéro 5 adverse?
Oui, je veux dire, quand il y a des match-up, je suis très content de voir que mon numéro 3 est capable de défendre sur Morera.
Voilà, sur le numéro 5 adverse. Je vous taquine.
Le premier lancé est manqué par Yannick Morera. Il y a 10 points pour Layani qui est le meilleur marqueur de cette partie pour le moment. Dixon est à 8. C'est Coles Junior pour l'instant qui en termes de scoring doit encore nous montrer qu'il peut être là. Dundao n'a pas inscrit de point non plus.
Ça c'est dur.
Les lancers sont manqués.
Encore Coles qui ne marque pas, c'est une chose. Mais Dundao, sa présence offensive est très très importante. Je vais vous dire que Mounassir a fait attention. Alors je ne parle pas des parts de l'os qui a été marché, mais directement son dépasse, ils n'ont pas encore permis à Dundao de vraiment justement d'aller chipper, de terminer des lobes et de provoquer des petites contre-attaques.
Vous vous souvenez de ce que disait Slimane à la fin de la demi-finale? Il a dit on va se reposer et on va bien les scouter. C'est peut-être ce qui explique cela.
Dundao qui a été l'un des meilleurs joueurs.
Ah oui, complètement.
Pas uniquement du Petro, l'un des meilleurs joueurs de la saison. D'ailleurs, il avait une belle tête de MVP. Puis, oh là là, il n'y aura pas de faute de siffler contre Gakou qui a bien défendu pour empêcher Slimane.
C'est la deuxième fois que Gakou il se fait avoir. Hein.
Oui, bien vu.
La première fois, ça lui avait coûté très cher. Slimane Diabaté pour Cole Junior pour peut-être les premiers points dans sa partie. Il y aura la faute de Gakou. Alors que Morera est sorti du terrain, Johnny Pedro l'a remplacé.
Et l'équipe de Mounassir qui continue à augmenter le rythme, à courir dès qu'ils peuvent. On a vu sur la pump fake de Gakou qui subit.
Il subit
pour l'instant Gakou.
Je vous disais que je le sentais un peu ailleurs, mais ouais. Ça se voit. Défensivement, il est au ras des pâquerettes.
Pour l'instant, il fait sa plus mauvaise mi-temps.
Toute la saison.
Sur toute la saison.
Je suis d'accord avec vous.
Ce qui est intéressant de voir, c'est de se rendre compte, c'est que le basketball rapide avec des 3 et des 4 qui ont plus ou moins la même taille est en train de basculer en leur faveur, alors qu'on avait toujours bien aimé en Afrique jouer avec des grands big men, entre guillemets, jouer à l'intérieur.
On va le laisser d'ailleurs étonnamment Gakou, malgré ses 3 fautes. On a sur le parquet et Pedro et Gakou qui ont 3 et 2 fautes. Attention, hein, ça va être important à suivre.
Quand j'ai vu Gonçalves s'avancer vers le changement, j'ai pensé à Gakou, mais oui, c'est Mathieu qui est sorti.
Ah, j'étais persuadé que c'était Gakou aussi. Et ballon gratté, voilà. Encore une fois par Solo. Slimane. Bien joué, Dundao, comme d'habitude.
Cole s'était ouvert et il a fait le ballon.
Si important, Dundao, toujours sur la ligne de passe. Oh, la bonne interception pour Julius Cole Junior. Et on appelle le alley-oop, ça sera pas le cas. Contré par Pedro. Et l'intensité tout de suite,
voilà,
qui remonte.
C'est ça qu'il aime bien, Dundao.
Gonçalves qui va le prendre, le shoot à 3 points. Dedans pour Gerson Gonçalves. Et ça fait s'enflammer la salle.
Oui, complètement. Je confirme. Et il a fait sortir Slimane de son short.
Firas Layani qui va attaquer le cercle et qui va provoquer la faute au sol.
Oui, mais messieurs, là, comme on l'a tous bien entendu, j'ai l'impression que la salle a pris parti. Pour l'équipe de Petro, donc maintenant il y a un sixième homme qui est présent. Beau compte de Pedro, main gauche. Ouais, en plus, et là, Dundao, il est en vitesse et en rythme. Et cette fameuse équipe angolaise qui aime bien jeter à 3 points.
Et le public un peu escroc alors, Jacques. Parce qu'en arrivant, les dirigeants de Mounassir leur ont distribué aux supporters des t-shirts. Ouais. Et s'ils les prennent pour supporter l'équipe adverse, il y a escroquerie là, il y a tromperie sur la marchandise.
Et Lionel Paolo va faire son apparition sur le parquet, vraisemblablement à la place de Gakou. Je suis surpris qu'il remplace Johnny Pedro quand même.
Voilà, le changement. Voilà, je me posais la question par rapport à Paolo, c'est pas justement à ce moment-ci qu'il peut aller prendre quelques minutes, il ne reste plus que 3-4 minutes avant qu'on arrive à la mi-temps.
Passage éclair de
de Mamli également, Doucet Mamli. On me confiait d'ailleurs que cette saison, il s'était entraîné énormément sur les presses tout-terrain à Haag. Essayer de défendre le meneur adverse, et notamment en le faisant l'entraînement avec Ty Lawson, l'ancien joueur NBA qui jouait à l'US Monastir cette saison. Bien joué, oh, la bonne passe pour Gerson, pour Johnny Pedro.
La grosse erreur défensive entre Slimane et Layani.
Ils se sont arrêtés de défendre parce qu'ils réclamaient une reprise de dribble.
Toujours aussi bon, hein, Gerson Gonçalves, pas celui qui est le plus flashy, mais quelle importance dans cette équipe. Ouh, le ballon gratté par Leonel Paolo. Attention, hein, pas gâcher ce ballon-là. Gonçalves, le step back, non. Dundao, la faute. Et le panier à 3 points ne sera pas accordé.
Oui, écran mobile.
Ouais, la faute offensive. Sifflé contre Leonel Paolo. Et là, je pense qu'il n'y a plus de doute possible. Toute la BK Arena est angolaise aujourd'hui.
Ça change la donne pour l'US Monastir. Ça change vraiment, vraiment la donne.
Bon, ceci étant dit, les joueurs tunisiens ont l'habitude de jouer dans des environnements hostiles. Hein. C'est,
oui, oui, mais
c'est
n'empêche,
pas ce qui leur fait peur.
N'empêche, il y a l'effet que cette salle peut avoir pour l'US Monastir, mais aussi l'effet que cette salle peut avoir justement pour cette équipe de Petro.
32-29 dans cette première mi-temps, le Petro de loin là, décidément.
Temps mort de cette équipe du Monastir. Le Petro de Luanda mène 32-29. On assiste vraiment à un match à deux sens où chaque équipe essaie de tirer le meilleur de ce match. On voit une très bonne adresse à trois points avec Gonzalves qui vient juste de planter un trois points pour prendre le dessus sur cette équipe du Monastir. Mais on voit une très bonne équipe aussi du Monastir avec Gayaza qui fait de très bonnes choses, des dunks acrobatiques, battant son adversaire direct. Et donc, il reste 3 minutes 11 secondes dans ce deuxième quart-temps avant la mi-temps. Et on peut dire qu'on assiste à vraiment une partie très équilibrée qui nous permet de voir deux équipes qui vraiment essayent d'imposer leur volonté à l'équipe adverse, mais à chaque fois les équipes arrivent à revenir au score. Le plus grand écart a été de 5 points par cette équipe de Petro de Luanda, mais l'équipe de Monastir avait réagi pour égaliser et le Petro de Luanda a accéléré une fois de plus avec bon arrêt de Pedro au rebond défensif qui a lancé en contre-attaque de Dundao qui a fait une très bonne passe à Gonzalez et qui a tiré à 3 points. Mais on repart dans le direct, 32-29 pour cette équipe de Pedro de Luanda.
Il n'est pas d'accord avec Pedro, cette troisième faute, ça le dérange, mais au plus haut point.
Bah, elle coûte 3 points, surtout à son équipe. Alors, ceci dit, bon, si son écran n'avait pas été mobile, est-ce que Dundao aurait pu shooter? Est-ce que ça n'aurait pas été contré? On n'en sait rien.
Allez, un petit coup de zone de 3, côté Petro.
Dixon. Et la défense, toujours de Chile Dundao. On va trouver Souleymane Diabaté qui va prendre le shoot à 3 points, contré par Leonel Paolo. Et il tape le sprint de sa vie de l'autre côté. Dundao à 3 points en échec, le ballon de contre-attaque, on essaie d'augmenter le rythme. Dixon qui a
bonne défense.
Gonçalves, oh, qu'est-ce qu'il est fort. Et 10 points aussi pour Dixon désormais.
Superbe gainage hein, de Michael Dixon.
Gonçalves qui va ressortir. Moreira, il y a le mismatch, attention, on va libérer quelqu'un à l'opposé. Et c'est Gonçalves qui le prend, il fait tout bien. C'est sûrement le meilleur joueur aujourd'hui du Petro de Luanda avec Yannick Moreira.
Et vous avez vu Moreira, il savait que son coéquipier avait un mauvais shot. Il a fait directement la passe en 20 temps.
Et l'extra passe aussi de Moraïs.
Yeah, c'est vrai, c'est vrai. On va rappeler Oussama Marnaoui côté Monastir. Plus 4 pour le Petro de Luanda. Il reste 2 minutes dans cette première mi-temps. Slimane est passé. Ouh, il est très court sur son shoot à mi-distance. Et Dundao qui pousse le ballon.
Il est passé.
Ouh, la faute de Michael Dixon. La première dans cette partie.
Ouais, Petro qui prend son rythme. On sait quand Dundao est capable de pousser le ballon en contre-attaque, c'est trop dangereux. Là, il a passé carrément la dernière, entre guillemets. Le dernier joueur de protection, c'est compliqué.
Oui, on les a vus complètement hausser le ton en défense. Et quand ils défendent bien derrière, ils arrivent à courir. Et ça, c'est tout le jeu du Petro de Luanda.
Oui. Et vous savez ce qui m'ennuie, Malik, c'est quand j'ai, à ce moment-ci, quand Layani et Slimane jouent à l'intérieur et qu'ils prennent des shots extérieurs, il n'y a pas de présence au rebond. C'est-à-dire que le Petro va être capable de contrôler le rebond et directement courir.
Et c'est là où les trois fautes d'Ater Majok sont problématiques.
Ouais, il faut absolument aussi qu'il trouve des shots pour Dixon, qu'il trouve des shots pour Diabaté quand il était sur le terrain, pour Coles. Comme ça, il y a quand même une présence des big men. Un minimum au rebond.
Premier lancer franc manqué par Chidi Ndao, qui a mis du temps avant de vraiment rentrer dans sa finale. Et qui semble désormais un petit peu mieux. Il a eu 24 ans le 17 mai dernier.
Et il a déjà remporté l'Afrobasket U18 dans cette même salle à Kigali en 2016.
Ouais, c'est le présent et l'avenir du basket angolais, de ce Petro de Luanda.
Rappel passe, dommage.
Ça fait bien senti par la défense.
Excellent. Regardez, Slimane a tenté l'interception, mais il se retrouve derrière en défense. Ils sont trop petits. Ils sont trop petits. Il n'y a plus personne à l'intérieur dans cette raquette.
Ils sont en train d'appuyer là où ça fait mal, le Petro de Luanda. L'US Monastir dans un temps faible.
Gros temps faible. Et c'est statique offensive.
Pierre Slayani qui va attaquer, attention. Il va rester 6 secondes sur la
voilà,
possession.
Voilà, le pick and roll. Voilà, se remettre en mouvement.
Coles, il ne met rien aujourd'hui, il ne met rien. 0 sur 5.
Il l'a vu, Dunao, il l'a vu.
Belle entrée de Paolo, hein. Deux interceptions, deux rebonds.
Correra.
Il n'y aura pas de faute, bien sûr. Il n'y a pas de faute.
Il y avait un gros flop.
Voilà, exactement. Mais un flop dans ces moments-ci, c'est compliqué parce que vous êtes en train de vous ramasser un run.
Ah là là, décidément, Julius Coles ne met rien du tout. Il y avait un bel écran posé par Layani, attention.
Ah, il faut défendre, il faut défendre.
Et Slimane qui arrache le ballon, il y a 9 points d'avance. Et Coles qui va trouver Dixon. Oh là là, qu'est-ce que c'est brouillon, mais ça va quand même rentrer.
Pas loin du marché, hein, Coles.
Ouais, ils doivent évacuer la pression là.
Il a raison, le coach. J'ai regardé justement le chrono a continué à découler.
Ouais, on revoit ici. Cette action à 3, alors qu'on l'a, on va revoir le flop.
Oh non.
Ouais, c'est pas le moment de le faire.
Ouais, ils sont en train de subir un run, il doit être solide sur ses jambes. Morera est probablement plus lourd, il a l'air d'être léger, Morera, mais on l'a vu 2-3 fois crier son espace dans la raquette.
Un autre temps mort demandé par cette équipe du Monastir, menée maintenant la plus grande différence, 40 à 33. On voit physiquement cette équipe du Petro de Luanda imposée sa volonté à cette équipe du Monastir qui manque d'une certaine manière, en anglais on dit firepower, de puissance de feu sur le plan offensif, ce qui fait qu'ils sont à la traîne par rapport au score maintenant. Et est-ce qu'ils pourront tenir 3 ou 4 cartons? On voit une équipe angolaise de plus en plus procéder par contre-attaque, rebond, contre-attaque, et ça fait une très 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 grande différence dans ce match qui se joue entre ces deux équipes qui ont mérité leur place en finale de cette compétition. Nous allons repartir dans le direct pour les dernières 15 secondes et ensuite nous allons avec Sedina Abagaïké au Sénégal décortiquer d'une certaine manière le match, et entre-temps, plus tard, on aura probablement le directeur de FIBA Afrique, le docteur Bilé, le secrétaire général à la fois, qui pourra nous donner des trucs. Mais on commencera avec Sedina Abagaïké. On repart dans le direct.
7 points d'avance pour le Petro de Luanda dans cette première mi-temps. 10 secondes.
Défense de zone de tout le club de Monastir.
Le shoot à 3 points. Ouh, il était presque rentré. Et on va en rester là dans cette première mi-temps. Petro de Luanda semble dominer les débats, plus 7 en laissant en contrôle. L'US Monastir va vraiment devoir hausser le niveau en deuxième période. C'est exactement ce qu'avait fait Zamalek l'an dernier. À eux désormais de faire la même chose cette année. 7 points d'avance.
40-33 pour le Petro de Luanda à la mi-temps contre cette équipe de Monastir. On a pu voir un match de grande intensité, un public très nombreux dans cette salle de la Kigali Arena. Cézina, on nous montre. Cézina va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Nous avons pour le moment une équipe du Petro de Luanda qui est passée à la vitesse supérieure, qui a compris que physiquement l'équipe adverse aurait des problèmes en termes de rotation du banc, parce que quand on voit dans ce match-là, l'équipe de Monastir a pu faire à moins 4 joueurs qui ne sont pas rentrés. Il y en a 2 qui sont rentrés du banc mais qui ont très peu joué. On peut voir que le banc, mis à part Suleiman Diabaté, Aka Solo qui a marqué 2 points, il n'y a pas de production de ce banc du Monastir. Par contre, de l'autre côté, dans l'équipe du Petro de Luanda, le travail est beaucoup mieux fait, même sur le plan physique, sur le plan défensif. Un travail est fait de manière à ce que, justement, cette équipe puisse performer au plus haut niveau. Je ne sais pas si nous avons ici Dina entre-temps, mais nous allons continuer. Le match, en tout cas, pour le moment, a pris une différente tournure. Très équilibré pendant pratiquement un carton et demi. On voit une équipe du Petro de Luanda qui physiquement, tactiquement, a pris le dessus, Cédina.
Oui, ils ont mis un coup d'accélérateur quand même entre le milieu du deuxième et la fin, et le milieu et la fin du deuxième carton, un coup d'accélérateur qui a été fatal, disons-le, à cette équipe du Monastir. Et c'est un coup d'accélérateur également qui est arrivé à un moment où les mauvais choix se multipliaient du côté de l'équipe tunisienne, avec notamment Julius Cole Junior qui a pris beaucoup de chutes, peut-être qu'il ne fallait pas, à des moments où il fallait ne pas suivre le rythme avec cette cadence accélérée que le Petro de Luanda avait mis, parce que c'est sur ce rythme-là que le Petro a véritablement misé à juste titre pour prendre ce mini-break à la pause.
Tout à fait. En tout cas, on voit d'ailleurs une très, très petite participation en termes de minutes et de points de la part du banc du Monastir. On peut voir que Slimane a joué presque 18 minutes, Layani a joué presque 19 minutes, et Majok, c'est juste parce qu'il avait des fautes, il aurait joué aussi beaucoup plus longtemps. Dixon a joué 15 minutes, Quartz a joué 15 minutes, donc très peu de changements. Souleymane Diabaté a joué 11 minutes, très peu de changements justement dans cette équipe de Monastir, ce qui explique un manque de fraîcheur et qui a permis justement à cette équipe de Petro de Luanda de prendre les devants, parce que le banc, il y a quand même, disons, 4 joueurs, Cipriano, Moreira, Domingos et puis Machuz, qui sont venus et qui ont joué au moins minimum presque 7 minutes, ce qui a permis de donner de l'oxygène aux joueurs majeurs. On a vu Leonel Polo aussi qui est rentré, et qui, du banc aussi, on peut voir une production offensive, Cédina. Et je crois que c'est pour cela qu'à la fin du moins à partir de la moitié du deuxième carton, on a vu une équipe du Petro de Luanda passer, accélérer et leur permettre justement de prendre cette bonne avance par rapport à cette équipe de Monastir.
Oui, l'apport du banc, comme tu le dis, a été déterminant. Cette tendance se confirme en seconde période. Le Petro de Luanda aura plus la latitude de reposer ses titulaires que le Monastir. Parce que là où le banc du Petro amène 17 points, le banc du Monastir n'amène que 2 points. Et je pense que c'est Diabaté qui les a mis. Donc, si l'un des entraîneurs a un banc qui peut être efficace, il va forcément, comme tu l'as dit, reposer ses cadres pour leur permettre de terminer encore plus fort, comme ils l'ont fait en première période. De l'autre côté aussi, le banc n'apporte pas grand-chose, mais l'entraîneur aussi est assez impatient avec le banc, parce que quand tu mets un joueur 2 ou 3 minutes, il ne score pas, et que tu le ressors aussi, ça ne lui donne pas confiance.
Tout à fait, en tout cas. Et puis, la production, on voit un Slimane qui est en dessous de son niveau. qui est contrôlé par la défense angolaise qui l'empêche de développer son jeu. Donc il est très frustré. 2 points seulement dans cette première mi-temps pour le temps qu'il a joué, c'est très négatif. 41% de réussite pour le Petro de Luanda contre 29 côté Monassir. C'est quand même pas très beau à voir de leur côté. 4 paires de balles à Monastir, c'est pas mal de ce côté, contre 11 paires de balles côté angolais, et malgré ça ils sont devant. Et donc cette équipe de Monastir n'a pas...
Monastir est à 10 paires de balles.
Pardon?
J'ai dit Monastir, je pense ils sont à 10 paires de balles.
Ah oui, 10... non ils sont à 4 paires de balles. Oui 10 paires de balles, excuse-moi, 10 paires de balles, tu as raison. Donc, et 10 paires de balles, les Angolais ont marqué 7 points justement sur ces paires de balles, alors que, les Tunisiens ont marqué 9 points. Mais ça, c'est au niveau de l'intensité de jeu qu'on voit que cette équipe n'arrive pas à suivre. On sent que les jambes commencent à peser lourd. On sent que cette équipe tunisienne, avec Slimane qui est quand même un exemple de joueur de haut niveau, n'arrive pas à suivre le rythme. Les Angolais ont compris ça et ils se sont dit nous allons courir, et le fait que l'équipe de Monastir n'arrive pas à planter des 3 points, l'équipe angolaise est passée dans des zones match-up 2-3 une fois, 3-2 une autre fois, et ça ne permet pas justement à cette équipe tunisienne qui généralement est assez à droite à 3 points de marquer des tirs à 3 points qui sont des plus-values. Et donc, ce qui fait que ça montre le retard qu'ils ont actuellement, puisque actuellement, au niveau des 3 points, ils sont à 0 sur 8, incroyable, mais vrai. 0% à 3 points, c'est quand même extraordinaire. Alors que du côté angolais, on a pu voir un récital avec Dominguez qui a fait vraiment des très très bonnes choses, 8 sur 13 à 3 points, 61% de réussite, c'est incroyable dans un match de ce niveau et de cette importance, ce qui prouve aussi que les rotations, les passes, les extra passes que les Angolais font, pénétration avec une passe extérieure, une autre rotation offensive, une balle qui va sur le joueur qui est le mieux positionné, ça a permis à Gonzalves de tirer des tirs à 3 points sur les côtés. Et on a même vu le dernier tir à 3 points qu'il a fait, il a tiré et il s'est retourné vers le public pour dire ça va rentrer, et c'est rentré. C'était extraordinaire, un peu à la Curie, quoi.
Oui, c'est extraordinaire. Je pense que ils sont à 8 sur 13 au lancer franc. À 3 points, ils sont à 6 sur 16, 37%. Mais comme tu l'as dit, c'est toujours aussi impressionnant. Et ils savent mettre des tirs à 3 points à des moments quand même importants du match. Des tirs qui coupent un peu l'herbe sous les pieds de la résistance monastérienne. Parce que, comme on l'a dit, le match était équilibré avec des changements de lutte assez régulier, mais à un moment donné, et en s'appuyant sur la percussion, la vitesse et l'adresse de ses arrières, oui, ses ailiers, notamment le Petro de Luanda a pu faire la différence. Pour le moment, ils sont devant.
Oui, Célina, on va essayer d'appeler, donc on va te laisser un instant, on va revenir vers toi, on va appeler le docteur Billet et je te rappelle dès que c'est possible pour lui poser 2 questions et on revient vers toi. Ouais, donc cette équipe de Luanda, tout de suite nous allons avoir sur la ligne le docteur Billet qui est le secrétaire général de FIBA Afrique. Ce n'est pas une personne inconnue dans le basketball africain, champion d'Afrique en titre en tant que joueur en 1981. Il a été aussi champion d'Afrique en tant que coach en 1985. Il est devenu président de la Fédération Ivoirienne de Basketball et ensuite... il est devenu secrétaire général de FIBA Afrique depuis plusieurs années, donc le directeur exécutif de ce FIBA Afrique. Et il travaille pour le développement du basketball en Afrique. Nous allons l'avoir dans quelques minutes. Nous attendons que le studio nous fasse signe. Je pense que la ligne sonne. Et donc on va lui poser quelques questions justement pour que... qu'on appelle ça, nous puissions lui poser ces questions par rapport à justement le choix qui avait été fait par FIBA de s'associer avec la BAL et l'impact de cette décision aujourd'hui au niveau de cette compétition et sur le continent africain.
Voilà, un petit éclairage sur, sur Mokhtar Gayaz hein, qui est rentré, qui s'est fait totalement dominer.
Non, plus 5. Plus 200. Ouais, 200, plus 250, ça marche. Hein.
On sait que d'accord. C'est pas lui qui doit mettre les points hein, dans, dans cette équipe de Bonastir.
L'âme technique, on va encore réessayer de rappeler Dr Billet en espérant l'avoir. Donc, ok, nous allons, on dirait qu'il y a des problèmes techniques, on va essayer de voir d'ici la fin du mois, la fin de ce match si on pourra l'avoir pour nous, pour répondre à deux de nos questions. Et donc, avec notre spécial reporter qui se trouve à Dakar, Sidna Abagay, nous allons continuer à parler de ce match qui, quand même, est très intéressant. On peut voir un stade archicombe. Dans la Kigali Arena et c'est une grande fête du basketball et ça devrait être comme ça et nous espérons dans le futur que justement à tous les matchs nous aurons des salles presque pleines ou en tout cas trois quarts pleines, ce qui va permettre une meilleure promotion du basketball africain. Donc on disait tantôt que cette équipe angolaise à 40-33 à la mi-temps a pris la mesure de ce match. Vont-ils avoir les ressources nécessaires de continuer à aggraver le score de la sorte? Nous verrons bien. En tout cas, nous qui regardons ce match, on est justement très contents de voir le résultat et j'espère que ça va justement réveiller des envies dans les autres clubs africains qui vont pouvoir justement s'organiser pour essayer de gagner leur championnat afin de participer non seulement aux éliminatoires et si possible à la phase finale puisqu'il n'y a que 8 équipes qui participent à cette phase finale où on joue les quarts de finale, les demi-finales et la finale. Et donc, disons que Sedina, qu'est-ce que tu penses on n'a toujours pas Sedina, donc on va continuer. On voit les deux équipes qui sont en train de s'échauffer. Nous allons voir comment elle passe. Sedina, comment tu vois cette deuxième mi-temps? Nous n'avons pas pu avoir le docteur Billet, mais on va probablement revenir après, plus tard avec lui, peut-être à la fin de ce match, quand on aura réglé des problèmes techniques. Comment tu vois cette deuxième mi-temps de ce match aussi important?
Bon, je pense que cette deuxième mi-temps, ça doit être une deuxième mi-temps de l'audace pour le Monastir. S'ils veulent revenir dans ce match, il va falloir, certes ils ne sont pas en réussite à 3 points, mais il va falloir quand même qu'ils essaient de forcer cette réussite-là, parce qu'ils veulent, pour faire terminer le match en mettre de panier à 3 points, sinon ils seront obligés avec des passes, des pénétrations à l'intérieur pour un peu marquer des points dans la raquette ou bien à des shoots à mi-distance. Maintenant, le coach également doit plus toucher son banc, même si c'est par portion au moins pour permettre à ses cadres de se reposer et de terminer avec fraîcheur, parce que c'est ce qui leur a manqué en fin de première période. Pour cette équipe du Petro de Luanda, je pense que ils ont pu mettre le coup d'accélérateur. Maintenant, il va falloir être dans la gestion sans pour autant se recroqueviller et arrêter de jouer. Maintenant, que la meilleure des deux équipes gagne.
Tout à fait. En tout cas, de l'autre côté, je pense que si le Monastir a besoin de faire un match-up par position, par exemple, il doit prendre le risque de faire entrer Solo Diabaté, même si c'est vrai qu'ils essaient d'avoir une production qui vient du banc. Il serait important de matcher la paire d'arrière de cette équipe du Petro de Luanda, parce que Luanda joue avec Moraes, avec Gonzalves et avec Dundao en même temps. Et de l'autre côté, ils n'ont pas les joueurs pour faire ça. Et à mon avis, il faudrait qu'ils fassent rentrer Dixon, Kouls Junior et Solo Diabaté pour pouvoir justement non seulement assurer le repli défensif, mais aussi avoir l'impact qu'il faut pour pouvoir contrecarrer cette équipe-là. Parce que tant qu'ils n'arrivent pas à le faire, ils vont continuer à prendre de l'eau, à mon avis. Et donc, pour l'instant, j'ai l'impression que le coach du Monastir reste conservatif et il suit son plan de jeu. Mais quelquefois, quand on est en difficulté comme ça, il faut sortir de son plan de jeu, tenter d'autres compositions du 5 majeur pour pouvoir contrecarrer leurs adversaires. Parce que par rapport à l'année dernière, cette équipe du Monastir a perdu de nombreux joueurs de qualité. Je me rappelle de ce joueur qui a joué, je crois, en Turquie et qui est venu au Liban ou en Turquie et qui avait renforcé cette équipe du Monastir, qui était un sérieux, un très bon guard qui venait du banc et qui produisait énormément. Et donc, ce qui fait que ça fait un désavantage pour leur équipe, c'est disant.
Oui, je pense que ils manquent de certes. En tout cas, ils ont pu peut-être remplacer Crawford par Solo Diabaté. Dixon également n'est pas mal. Cole Junior, moi je l'ai vu aujourd'hui très emprunté, hein, parce que avec un seul point, 0 sur 6 au tir, mais quand même il a pris des tirs qu'il sur des phases de jeu où peut-être jouer collectif aurait été mieux, parce qu'il y a plusieurs, deux ou trois phases en tout cas qui m'ont marqué sur la période où le Monastir n'était pas dans un temps fort. Il a voulu prendre des chutes et ça a un peu pénalisé son équipe.
Ouais, donc, c'est là on va repartir dans le direct. Ils ont redémarré le match 40-35 avec un panier de Majok. À tout à l'heure, on se reprend.
Starter, mais c'est Yannick Morera qui est avec les starters dans ce début de troisième carton. Non, oh là 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 là,
pas certain. Pas certain que cet écran fut mal placé.
Et la faute est sur Morera.
Oui, exactement.
Alors, est-ce que c'est la deuxième ou la troisième pour Morera? Julius Pauls.
Il n'est pas content, hein. Nieto, hein, pour cette faute.
Ouais, mais je peux. Elle était un peu bizarre.
Allez, c'est encore. Ah, c'est Morech.
Non, c'est Morech, mais ça va être sa troisième. Attention, parce qu'ils sont trois désormais à trois fautes. Prendre une faute très très tôt, hein, dans le troisième carton, c'est régulièrement préjudiciable. On retrouve Michael Dixon sur la ligne.
Alors, je ne sais pas si les Mexicains parlent portugais, je sais qu'ils parlent espagnol. Le public angolais commence à chahuter gentiment ou méchamment, c'est selon Madame Canizares.
Oui, bon, elle est bien dans son match, hein, Madame Canizares. Un gros caractère.
Ah oui, oui.
Elle qu'on avait découvert lors de la conférence Nil au Caire.
Ah, il est parti bézal. Oh là là, elle a été vite.
Le balancier recule, Carlos Moraes à 3 points encore une fois, l'extra-passion.
Et Dundao commence
en
à prendre
le jeu, bien sûr.
Quelle action extrêmement athlétique, il a explosé, battu son homme, et à partir du moment où il est arrivé de baseline, on savait que Monastir allait devoir se battre avec des rotations.
Et Coles, oh ya 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 ya, qui envoie un parpin pas possible là, Julius Coles. Carlos Moraes qui va perdre le ballon par contre.
Et regardez ce qu'il est en train de dire, Dundao. Donnez-moi le ballon. Et il n'a pas de temps, parce qu'à chaque fois le ballon arrive dans ses mains. Ouais, il a sauté, entre guillemets.
Oh, mais
il était très trop.
C'est la fourmi atomique. Hein,
mais oui, Dundao. Mais en plus, il pénètre si vite, il est capable de créer pour ses coéquipiers. Il faut lui passer le ballon.
Non, mais l'extra passe, Layani, Dixon. Il n'a pas pris un shoot à 3 pour Michael Dixon pour l'instant. Très bien défendu, Firas Layani. Dixon, cette fois-ci, il va le prendre, le shoot à 3 points. Oh, il n'a pas de réussite, pas de chance.
Trouvez Dundao, regardez, première passe Dundao, on est en mouvement.
On vend l'écran pour Carlos Moraes qui va prendre ce shoot à nouveau. Là, il est très court, attention avec l'angle, on a cru que c'était tombé dedans.
Ils ont un jeu de transition pour l'instant très efficace.
Extrêmement efficace, et on attend toujours que cette équipe de Monastir mette son premier shot à 3 points.
Et encore une fois, c'est manqué par Majok qui avait mis le tout à l'heure, hein, le long 2, il ne le met pas celui-ci. 6 points d'avance pour le Petro de Luanda.
C'est des minutes difficiles, hein, pour l'AS Monastir qui joue sans Seaman.
Oh, l'écran viril de Yannick Morera. Gonçalves. Gakou. 3 secondes sur la possession. Attention, il faut le défendre. Mais bien sûr, comment c'est possible de laisser Gerson Gonçalves libre comme ça derrière l'arc.
Et Moraes qui lui fait un bisou. De loin. Il lui envoie le bisou.
Ils sont en train de prendre l'eau de toutes parts défensivement.
Mais l'écart n'est pas si énorme, il n'y a que 9 points pour l'instant. Est-ce que c'est Majok qui va mettre le premier shoot à 3 points? Et c'est le pivot, c'est incroyable! Incroyable, ce soit lui qui met le premier. Après 24 minutes de jeu. 23 d'ailleurs.
Et ça leur fait du bien, l'US Monastir. Maintenant, à savoir si c'est assez. Est-ce que c'est assez pour faire sortir le Petro de cette zone-là? Est-ce qu'on va continuer à laisser légèrement ouvert? Parce qu'on se pose la question, quel est le pourcentage de chances qu'ils mettent un deuxième shot à 3 points?
Yaku, allez, il doit être impactant. Oh, avec la planche. Il n'avait pas annoncé. Hein. Évidemment, il y aura le coup de sifflet.
C'est Moreira.
Troisième pour Moreira.
Mais monsieur Moreira, quand vous êtes un big man de 2m10, il ne faut jamais se laisser avoir entre les deux lignes à 3 points. C'est là où vous êtes le plus faible défensivement. Vous devez vous friter et repartir dans votre zone de défense.
Dixon qui va retrouver la Yanni à 3 points. Pourquoi pas, ben voilà. Une deuxième réussite avec la petite danse sur les hanches. Il en a l'habitude, Firas Layani.
On peut exagérer ça quand même. Oui. À ce moment-ci du match, Malik.
Au moins, il ne toise pas un adversaire. Parce que ça aurait pu valoir une faute technique.
Ceci dit, je ne veux pas savoir ce que ça veut dire dans son esprit. Yanni Moreira qui va retourner face à Aterma. Je vois qu'il s'est trois fautes. Et il y aura la faute, justement, la quatrième. Et là, c'est peut-être un tournant dans ce troisième quart-temps.
Il y avait quand même beaucoup de corps sur ce mouvement. Il y avait trop de corps pour quelqu'un qui a trois fautes. Il ne peut pas se permettre de laisser l'arbitre prendre la décision. Regardez, bam, hop, là, il y a quand même beaucoup. Il y a les bras qui touchent, il y a le bas du corps.
Ça sert à rien de me regarder comme ça. Je suis d'accord avec vous, attention. Je suis d'accord avec vous.
Je pensais que c'était votre position préférentielle.
Non.
Joueur intérieur.
Moi, j'ai aucune position préférentielle.
Les trois coachs de Monastir qui parlent monde, parce que là, il y a une décision à prendre. Si on les laisse continuer, c'est un risque. Non. Est-ce que c'est un risque calculé ou alors on fait revenir Mokhtar Gayaza?
Il faut faire revenir Mokhtar Gayaza, je pense.
À 4 fautes.
S'il prend sa cinquième, c'est un quart d'heure de jeu sans lui.
Mieux vaut jouer avec Gayaza, et on sait que c'est un joueur justement qui est plus physique et qui a pas plus physique que Majok, mais qui est plus physique qu'il en a l'air.
C'est Slimane. Slimane
qui revient, ça va passer en small ball, mais avec Slimane à 2m05, c'est peut-être une solution.
Et 0 sur 2 haut. Qu'est-ce qui est sifflé?
Il est en train de sortir Violation. De son match. Il est Violation. En train de sortir de son match à terre, Majok.
De toute façon, il va être sorti. De toute façon, qu'il retourne sur le banc, se remette les idées en place.
Mais il vaut mieux. Il n'y est pas.
10 points pour Aterma Jok, mais aussi 4 fautes.
Il a prononcé quelques mots là que je ne vais pas vous traduire, mais. Waouh!
Il venait de faire 0 sur 2. Yannick Moreira, on va lui permettre de rectifier son deuxième lancer. Il n'y aura pas plus de réussite de la faute de Slimane.
Les deux joueurs, ouais, double faute, j'ai l'impression.
Ouais, ça crie à l'injustice sur le banc tunisien.
Mais il l'a attrapé, on l'a vu. Il a accroché Gakou par derrière.
Justement, la Yannick qui demande aux supporters tunisiens, allez-y, encouragez-moi, on a besoin de vous.
C'est pas du tout une bonne faute. Hein.
Ouais.
Ça rend le ballon à Monastir, au Petro, pardon.
Alors pour regarder à l'intérieur d'Undao, c'est simple, là, il y a un mismatch.
Il le sait bien sur l'écran de Moreira.
Et c'est Slimane qui défend Moreira.
Jacou, on a bien fermé pour Layani, le ballon est perdu, il y a un ballon de contre-attaque pour Julius Cole Junior qui est tout seul. Ah non ! Ah, il ne peut pas faire ça en finale, il ne peut pas. Il est en travers depuis le début du match.
Ah, il va être sanctionné, c'est lui qui sort.
Ah mais c'est normal, il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans.
Regardez, ça c'est bien ce que lui fait Firas Layani.
Ah, c'est incroyable de laisser passer l'occasion de réduire le score comme ça.
Il y a de la tension, hein, monsieur. Il y a de la tension qui s'accumule dans cette arène.
Et c'est Mamie qui va défendre sur Dundao désormais.
Le match devient crispant.
Ouais.
Ils ont un gros avantage à l'intérieur avec Moreira. Il faut juste être un petit peu patient, le laisser plonger.
Très bien joué Slimane, très bien fait, sans faire de faute. Il ne faut pas commettre une faute bête maintenant.
La faute. Il va discuter, mais il y a faute. De ma position, je le vois prendre les deux pieds de Moraïs. Il y a bel et bien faute. Toujours.
Ils sont pas loin de la technique, hein, parce que là, ils commencent à un petit peu trop respecter.
Calizares qui demande du calme. Last time, c'est la dernière.
Ah, il est pas content, Slimane, mais je crois que le ralenti, on l'a quand même vu avec cette petite faute sur Carlos Moraes.
Et on est qu'à seulement moins 6, hein. C'est pas. On...
C'est ça qui est difficile à comprendre.
Oui. Parce qu'ils peuvent se mettre dans une mauvaise situation ou s'ils se ramassent une technique, s'ils continuent comme ça, là, ils vont passer dans le rouge. Mais pour l'instant, ça va.
Et il vient de provoquer deux fautes en 45 secondes, depuis son apparition. Il faut rester dans le match, marcher, s'il plaît, contre Gerson Gonçalves. Et c'est vrai que le momentum et la salle sont pour le Petro pour l'instant.
Le sixième homme qui s'est réveillé très tôt dans le match. Et je suis un peu déçu là de l'attaque du Petro parce qu'on n'a pas été capable de retrouver simplement Moreira. 2m10 contre Slimane à l'intérieur.
Et il faut l'attaquer, Moreira, désormais. Il a trois fautes. Ouh, il n'y aura pas de coup de sifflet. Attention à pas. Jumble, bien sûr. Possession partagée, alternée, pardon. Ça sera ballon Petro.
Je ne sais pas pour vous, mais là, il y avait moyen de siffler faute contre Marnaoui. Plutôt contre Maemli. Voilà, les arbitres ont fait preuve de psychologie.
On refait revenir Souleymane Diabaté sur le banc alors que Djaziri lui est venu jusqu'avec lui pour le motiver. Ça sûrement lui a dit bon allez, tu nous fais comme l'année dernière maintenant.
C'est le moment de te réveiller. Mais c'est l'homme des situations, hein, sur Diabaté. Il aime bien ces moments tendus.
Il avait pris feu, hein, en finale de l'Afrobasket, hein, dans le dernier carton, ça avait été un petit peu court. Mais en finale de la BL l'an dernier, il avait été injouable. Sûrement le meilleur joueur de la finale. Voilà.
On a mis le shutter contre Gonzalez du côté de Morera. Marché, encore une fois.
Que de marcher sifflé dans ces playoffs. Et un temps mort est pris, en tout cas 49-43 dans ce troisième carton. 4-45 à jouer, le Petro de Luanda est toujours devant, deux possessions d'écart.
Temps mort demandé par cette équipe du Petro de Luanda qui continue de mener sur la marque de 49-43. On peut voir qu'au niveau des deux équipes, il y a eu quelques ratés, que ce soit aussi bien du côté de Monastir qui n'arrive pas réellement à jouer du mieux qu'il peut, mais aussi du côté du Petro de Luanda qui a eu à faire plusieurs violations, marcher, faute et marcher. Et donc ça a permis à cette équipe de Monastir de réduire la marque de 3 points, mais le score reste toujours de 6 points de différence, ce qui fait qu'il y a un avantage assez important pour l'instant, même si ça paraît ne pas l'être, mais c'est un avantage assez important de cette équipe du Petro de Luanda qui en veut un peu plus, ça se voit par leur manière de jouer. Et donc... pour le moment, l'équipe de Monastir n'a pas encore réussi à régler le problème, le manquement au niveau, qu'on appelle ça, des arrières. Pourront-ils le faire? En tout cas, nous sommes actuellement au troisième carton, 49-43 pour cette équipe du Monastir. Il reste 4 minutes 45 secondes pour ce troisième carton. Et quand on voit le score, c'est la première fois dans ce carton que le Monastir mène le troisième carton, c'est le seul carton dans lequel ils ont pu ils ont mené au premier et au deuxième, mais un point seulement, ce qui fait que cette équipe du Petro a pris le dessus. Mais petit à petit, les équipes reviennent sur le match, donc on repart dans le direct entre Luanda et Monastir.
Sans Intermajoc et ses quatre fautes, Intermajoc, mon cher Jacques, qui est le défenseur de l'année de la saison 2.
C'est pour vous dire comme il pèse dans la balance pour l'instant.
Il ne l'a même pas regardé. Pendant le temps mort, il était concentré. Je ne sais pas s'il a regardé l'écran, mais il doit même pas savoir qu'il a été élu défenseur de l'année.
Marché, sifflé encore contre Marnaoui cette fois-ci. Ouais, il y a plus important pour lui pour l'instant. Il sera très heureux de recevoir son trophée plus tard.
La réalité de ce match, c'est que même si on a Major qui est sur le banc, pour l'instant, ils sont seulement à moins 6. C'est Petro qui est en train de perdre. Des opportunités, parce que vous savez pas, à un moment ou l'autre, il remonte sur le terrain et ça change. Regardez.
Et Dixon. Oh, il a bien évité le contre. Oh, le toucher de Dixon. 16 points pour lui désormais. Meilleur marqueur de son équipe.
S'il a encore des choses à corriger, style de Dundao, ce sont les pertes de balles.
Ouais, je suis assez d'accord. Ceci dit, c'est toujours dur, hein, quand vous êtes celui qui touche le plus de ballons dans l'équipe. Mais je suis très d'accord avec vous. Yannick Moreira de nouveau, pas mal fait, Slimane, sans faire de faute en prime. Oussama Marnaoui. Qui va attaquer le cercle, évidemment, qui va finir, voilà.
Bien joué.
Ça, c'est ce qu'il perd.
Erreur défensive, bien joué, on le disait, le Petro.
Attention, parce que Marnaoui, c'est un joueur.
Temps mort de l'équipe de Petro de Luanda qui vient juste d'encaisser coup sur coup deux paniers. Et donc, cette équipe de Luanda revient à deux points, deux petits points derrière l'équipe du Petro de Luanda. On voit une meilleure détermination. Monastir sent le danger de perdre ce match et effectivement de perdre une deuxième finale d'affilée. Et donc, ils essayent d'éviter cette catastrophe. Mais le match est très disputé. Je suis convaincu que le coach Neto, eux aussi de leur côté, vont faire justement du moins les ajustements nécessaires pour reprendre le dessus, le rythme qu'ils avaient pu imposer à cette équipe du Monastir. Et j'espère que, du moins pas j'espère, mais je pense que c'est au niveau du côté physique que probablement qu'ils ont quelques petits problèmes. Et nous verrons justement qu'on appelle ça, qu'est-ce qui va se passer par la suite. En tout cas, ce qui est sûr, ça a dû redonner de l'énergie à cette équipe du Monastir. Mais est-ce qu'elle est assez profonde pour pouvoir terminer cette deuxième mi-temps, fin du troisième quart-temps et du quatrième quart-temps? Mais nous repartons dans ce direct, balle à l'équipe du Petro de Luanda.
Et malgré ces deux points, Slimane est très impactant parce que pour l'instant, il est en train de faire du mal à Yannick Morera. Johnny Pedro est de retour sur le parquet avec trois fautes. Yaku aussi a trois fautes.
Ils ont haussé le temps défensivement,
ouais, ouais,
les
ouais.
joueurs de Monastir.
Gonçalves à trois points. Oh là, il est dans un grand jour encore, Gonçalves.
Et Slimane lui a acheté un regard quand le ballon est rentré.
Et ça fait 5 sur 6 pour lui.
Et il a fait ce qu'il devait faire, hein, Layani. Et il se prend quand même ce tir sur la truffe.
Marnaoui, à 3 points, c'est répondu. Et il répond également au port du Petro de Luanda.
Ça trash talk dans tous les sens, messieurs.
Allez, faut défendre maintenant pour Monastir. 3 minutes à jouer dans ce troisième quart-temps. Pedro.
Ah, j'aime bien l'agressivité défensive de Monastir sur ces actions-ci. Voilà, jouer dans les lignes de passe.
Et faute de Pedro, ça va être la quatrième.
Et la quatrième, oh là là, attention. Et Slimane est en train de faire un chantier en défense depuis qu'il est rentré.
Entièrement d'accord avec vous, Étienne.
C'est aussi à ça qu'on reconnaît un leader quand on n'est pas forcément impactant offensivement. On peut l'être de l'autre côté du terrain. Son leadership en demi-finale avait été hors du commun.
Le coach Nieto n'est pas d'accord. Il dit c'est trois fautes. Les arbitres ont bien compris.
Non, 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 la quatre.
C'est de l'intox.
La quatre. On est tous d'accord là-dessus. Et mine de rien, l'apport de Marnaoui dans ce troisième carton avec ses 5 points.
Attention aussi, il l'attaque là.
Et Marché. Non, encore une fois.
Ce fameux pas ouvert, c'est un pas très très compliqué quand vous voulez battre votre homme en un contre un.
Mais moi je peux vous dire que ce marché fait du bien à Pedro parce que sur le drive de Layani, il aurait pu sortir pour 5 fautes.
Ouais, il est totalement en travers dans cette finale, Johnny Pedro, depuis qu'il s'est fait poinçonner par Tefiras Layani.
Je suis d'accord, psychologiquement ça peut vous tuer.
Ça réveille des fois, mais je crois pas que ça l'a réveillé là. Ouh, le ballon perdu, gratté par Mokhtar Gayaza. Sous les Madiabatés, ça permet à Monastir d'égaliser. Ils y sont plus, les Angolais.
Le momentum a changé.
Complètement.
Gonçalves. Ouh, il a résisté à Marnaoui. Oh, qu'est-ce qu'il est fort aujourd'hui.
Gonçalves, c'est vraiment lui qui fait le beau temps hein, pour l'instant.
Factor X, hein.
21 points, son meilleur match cette saison. Dixon, mi-distance. Dixon, mi-distance, évidemment. Qui d'autre pour répondre à Gonçalves?
Allez, les deux équipes qui s'hibèrent un petit peu offensivement.
Et bien sûr, on va essayer d'attaquer Gayaza. Oh, il n'y aura pas de faute.
Il y a eu le coup de sifflet.
Il était pas très franc, il était hésitant ce coup de sifflet.
Vous avez raison.
Moi, je crois qu'il l'a fait à la bouche, hein, sans son sifflet d'ailleurs. deuxième feu pour Gayaza. Mais bon, tant qu'il n'y a pas un écart au score et tant qu'il n'est pas embêté par les fautes, ça va.
Regardez cette belle action, il tient le ballon style football américain, il crée la séparation et puis il est sur sa main gauche, donc il est du bon côté pour prendre son temps.
Sur 8 sur la ligne aujourd'hui pour l'international angolais.
Je vous parlais d'escroquerie sur ce lancer franc réussi de Moreira. Les supporters qui ont reçu les t-shirts de Monastir étaient heureux.
Ils ont peut-être un t-shirt du Petro de Luanda en dessous leur t-shirt de Monastir. Ils sont gagnants quoi qu'il arrive. Ils sont un peu comme vous, Jacques, d'ailleurs.
Bien gentil.
J'étais en train de me demander à quand la première méchanceté d'Étienne.
Ouais, mais c'est bientôt la dernière. Il faut que j'en profite. Car il reste 11 minutes 49 dans cette finale et dans cette saison. Et le Petro de Luanda est devant. Il a bien fait, d'ailleurs, de mettre ses deux lancers. Yannick Moreira qui porte son total à 13 désormais. Slimane. Gayaza, on va retrouver Slimane, l'écran de Mokhtar Gayaza. Il est très court sur son shoot à 3 points, il n'est pas en phase avec son shoot extérieur et le panier de contre-attaque pour Yannick Moreira. Et temps mort, forcément demandé par coach Perisic à une 27 de la fin de ce troisième quart.
Votre temps mort, mais cette fois-ci demandé par le club de Mounassir qui vient d'encaisser back-to-back deux paniers. Par cette équipe de Petro de Luanda avec une contre-attaque qui se termine par un smash de Moreira. On voyait une équipe de Monastir qui a fait d'énormes efforts sur le plan défensif et offensif pour revenir à la marque. On était à égalité à 54-54 et on voit cette équipe de Luanda essayer de reprendre le devant, de remettre l'énergie. Et un coach de l'équipe de Monastir de faire les ajustements nécessaires, justement. Ce sont les ajustements défensifs. Sur ce coup-là, la dernière attaque, le repli défensif n'était pas assuré. Tout le monde était en avant, n'ont pas fait attention au grand, au big man qui est parti et qui a marqué ce panier très capital. Donc, on voit actuellement l'équipe de Monastir, le coach en train de donner le dernier conseil. Et ils vont revenir sur le terrain pour essayer de réduire l'écart. Nous sommes à 1 minute 27 de la fin de ce troisième quart-temps et nous allons voir exactement ce qui va se passer. Nous allons voir si l'équipe de Monastir va pouvoir recoller au score avant d'entamer ce dernier quart-temps avant la fin du match, ce qui déterminera le nouveau champion de la balle 2022. Donc on repart dans le direct 58-54 pour le Petro de Luanda.
Alors messieurs, j'ai vu un geste de Slimane qui se tient l'arrière de la cuisse et ça doit être très très rassurant.
Dixon très court.
Ah, de peu.
Et le rebond offensif, la faute de Moreira,
Ça sera Gakou.
Pas certain.
C'est Gakou, il a de la chance Moreira parce qu'il en avait fait une aussi juste ouais. Après.
Le coup de sifflet était tardif.
Et quatrième faute. Oui, le secteur intérieur du Petro de Luanda en grand, grand danger.
Il y a des foul trouble partout.
Ouais. Alors, 4 pour Gakou, 4 pour Pedro et 3 pour Moreira. Mais avec un peu de toucher.
De toucher ou de la réussite?
Les torts sont partagés. Sur deux, par contre, pour la Yannick, 3 points d'avance pour le Petro de Luanda.
Voilà, un petit peu de mouvement. Pour 15 secondes sur le coin 2. Donc là, ça va. Là, pour l'instant, on est bien.
Et faute de la Yannick, me semble-t-il, qui,
c'est bien, oui.
Qui n'est pas d'accord. Et ça envoie Gerson Gonçalves sur la ligne. Qui n'en a pas shooté pour l'instant. Mais bon, il a shooté très bien à 3 points. Il est à 5 sur 6. Alors que Johnny Pedro n'a pas le droit de rentrer sur le parquet pour l'instant.
C'est Aboubakar qui revient, Gakou.
sur les yeux de Matthews, hein, qu'on voit ici à l'écran, très 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 discret dans cette finale, et qui nous a montré sur quelques séquences qu'il a du ballon. Mais bon, c'est pas facile aussi pour lui d'arriver dans un collectif si bien habitué à jouer ensemble, si bien huilé.
Ah, c'est très difficile, c'est pour ça que moi je le vois comme un joker, parce que s'il est là, s'il a été, il a été ramené dans cette équipe, c'est qu'il peut nous offrir quelque chose. Il n'a pas fait des mauvais matchs, non, il y a eu quelques bonnes actions, mais malheureusement, comme vous le dites, j'ai pas l'impression qu'il a déjà pris le rythme du reste du groupe.
Et c'est la même chose hein, pour Anderson Correa, qui est international capverdien, hein, et qui malheureusement ne fit pas dans cette équipe.
Absolument, on l'a très très peu vu en saison régulière, on ne le voit plus du tout en play-off, ce qui est pourtant...
Il ne participe même plus autant.
Ah ouais, qui est pourtant un bon joueur. Hein.
Ah oui, il est titulaire.
Diallo qui va ressortir Diabat, il va prendre le shoot à 3 points à 45 degrés, ça ne rentrera pas. Le rebond offensif pour Gaillaza qui essaie d'y remonter tout de suite. Et il y a une faute de sifflet.
Il y a une faute de sifflet et c'est là un des rares rebonds offensifs de l'US Monastir.
Il y a encore une faute sifflée très très tardée.
C'était le troisième rebond offensif, me semble-t-il. J'ai pas beaucoup. Enfin, je dis à 4 rebonds offensifs, à 3. Donc
c'est pas énorme.
C'est pas énorme. Elle était sur Gonçalves, me semble-t-il, sa faute qui, deux, à son tour, à 3 fautes. Il met ses lancers, Mokhtar Gaillaza. Oh là, attention, on va entrer dans un money time de 10 minutes à l'issue de ce troisième carton.
Tension est à son paroxysme.
Et il met ses lancers, Gaillaza, le point serré. Pour celui qu'on surnomme le cerveau en Tunisie.
Et même les VIP sont circonspects.
30 secondes. Dans ce troisième carton, attention, le ballon perdu, récupéré tout de même par le Petro de Luanda.
Un bon travail de sac de Gaillaza, qui n'a même pas perdu, permis à Gonzalez de pouvoir jeter un coup d'œil à son coéquipier.
9 secondes sur la possession, il est passé, Gonzalez. Il va ressortir. Matthews à 3 points, un peu long. Deuxième chance, peut-être.
Et ils ont la dernière attaque. Oh là là, Neto qui est au milieu du terrain. Ça, c'est une faute technique. Hein.
4 secondes entre les deux horloges. Le step back pour Gonçalves qui va manquer ce shoot là-bas. Attention, deuxième rebond offensif. Et ça rentrera pas. Il n'y aura pas de temps. Ça sera pas
annulé. C'est annulé.
Oh là là, quelle action au buzzer.
Avec le geste qu'elle fait, Madame Carrizares, il y aura peut-être un review.
Mais non, ça m'aiderait, c'est pas possible. C'est pas possible, on reverra.
Fin du troisième, qu'on appelle ça, du troisième carton. Du troisième carton qui on est en train de revoir si le panier du Petro, du joueur du Petro de Luanda est validé pour la fin de ce carton. Mais pour le moment, le Petro de Luanda a beaucoup plus d'énergie et d'une certaine manière en train de dominer son adversaire sur le plan physique. Le score est assez serré, les arbitres sont en train de revoir l'image pour savoir qu'on appelle ça, c'est un panier ou ce n'est pas un panier. Donc ils vont regarder et ils vont confirmer si oui ou non. Ce tir a été pris avant la fin du chrono. Et donc on verra bien. Donc là, les arbitres vont d'une certaine manière donner leur position. Et c'est eux qui ont le dernier mot, ce n'est pas la table, c'est à eux de dire si oui ou non la balle a quitté les mains de joueurs angolais et a pu rentrer avant que le rouge soit présenté. Donc nous allons attendre le résultat. Donc non, le panier n'est pas accepté, il a été refusé. Et donc 59-57 pour le Petro de Luanda, en tout cas nous allons assister à un très grand quatrième carton qui va être très compétitif. Et là maintenant, toute petite erreur permettra de, du moins, peut sanctionner l'équipe qui en fera le plus. On va essayer de regarder rapidement quelques statistiques pour voir, par exemple, au niveau de la réussite, le Pedro actuellement est à 46%. De l'autre côté, l'Union Sportif de Monastir est revenu à 44% alors qu'il était à la mi-temps de 29%, ce qui lui a permis de a permis à cette équipe de pouvoir refaire son écart à 2 points le match et sont revenus dans le match. Sur les pertes de balles, l'équipe justement Union Sportive a pu marquer 17 points. C'est ce qui a permis à cette équipe de revenir à la marque. Hein, quand on voit cette équipe de Luanda qui avait fait moins de pertes de balles, là elle en a 20, ce qui est beaucoup pour une équipe qui joue une finale, en tout cas d'un titre comme celui de la balle. De l'autre côté, on va voir l'équipe de Monastir perd moins de balles, mais ça n'empêche pas qu'elle reste toujours derrière et que cette équipe de Petro de Luanda continue à imposer d'une certaine manière son rythme saccadé, puisqu'ils jouent par percussion. Chaque fois qu'ils ont le ballon, ils démarrent et ils courent lors de contre-attaques. Même si les joueurs adverses arrivent à se repositionner, ils font des passes, et un décalage, une autre passe et un tir à 3 points. Ça a assez bien marché jusqu'à maintenant. On a vu un grand joueur, un grand Gonzalves qui a vraiment fait un grand match jusqu'à maintenant, puisqu'il tourne, il a marqué. Il a fait du 8 sur 10 au tir, dont 3 sur 3 à 2 points et 5 sur 7 à 3 points. Pour 80% de réussite, c'est énorme dans une compétition de ce genre-là. Et s'il continue comme ça, je crois que le Petro devrait essayer de jouer le plus sur lui, mais il ne force rien, il joue propre et juste. Donc on repart dans le direct, 59-57 pour le Petro de Luanda.
Il lui a dit, continue de bien défendre nos baskets.
Ah, marché encore, mais Firas Layani aujourd'hui, il aura perdu tellement de ballons comme ça sur ses marchés.
Il est parfois plus intéressant. Il part toujours d'une situation zéro. Ça veut dire que soit le ballon, il n'est pas en mouvement. Peut-être le faire utiliser des écrans, qu'il puisse utiliser sa vitesse et avoir un défenseur qui lui aussi est en mouvement.
Attention, parce que là, il y a eu un carambolage. Perisic mécontent hein, sur le parquet. On a revu, hein, alors que le jeu a repris déjà.
Oh, mais ça, c'est bien le switch provoqué pour Moreira.
Et le ballon est perdu par contre.
Il passe encore une fois à côté d'un avantage.
Oui, oui, complètement. Ils ont bien provoqué le switch et après Moreira, on ne sait pas ce qu'il a voulu faire du ballon.
Je peux vous dire que si je suis du côté de Monastir, je suis bien là pour l'instant. Je suis bien quand je regarde le score.
Dixon, Souleymane Diabaté qui claque le ballon pour Firas Layani. Il est dur, se jette à 3 points. Oh, il va tomber dedans pour Dixon. Monastir reprend les devants. Le momentum est en train de changer de camp.
Ah, il patauge sur cette défense.
Ils n'avaient rien mis derrière l'arc. À l'issue de la première mi-temps, ils en ont 4 désormais. Ouh, le shoot difficile. Oh, ça, c'est pour lui.
Et le petit geste en direction du banc. Très provocateur, hein, Yannick Moreira.
Oui, il l'aura fait toute la saison. Hein, de toute façon, toute sa carrière, faute offensive. Faute offensive pour Gayaza.
Cette fois-ci, le faux écran dont parle Jacques a été vu.
Faux écran, mais vraie faute.
Oui, exactement.
Troisième faute pour Gayaza.
Il n'était pas passé ce shot à 3 points de Dixon. Parce qu'il y a des corps autour de lui. Il y a des corps et des bras levés.
Il aurait été tellement fort dans cette saison, Michael Dixon.
Et surtout constant dans ses efforts, dans sa manière d'aller chercher les points, dans sa manière de faire jouer son équipe, dans les moments difficiles aussi toujours présent.
Écoutez, aujourd'hui, il a 18 points en 8 shoots pris. 6 sur 8, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Et ça a été ça tout au long de la saison.
Je suis d'accord. Et en rentrant dans cette finale, il était à 50% à 3 points. Ouais, ouais. Et il en prend, je pense, légèrement au-dessus de 4 par match.
Et Slimane qui continue de se toucher le haut de la cuisse.
D'ailleurs, il est plutôt à 21 points, à 7 sur 9, pardon. À 1 sur 3 derrière l'arc. Ouais, c'est à signaler ça pour Slimane, effectivement, Malik. Et faute offensive, voilà, c'est rendu. Elle est pour qui
Le 0-0, c'est Mathieu.
C'est Mathieu. Julius Scholes est vissé au banc. Il est cloué, scotché, tous les synonymes que vous voulez, Jacques. On ne le voit plus.
Il y a un match difficile. Hein.
Attention, Moreira. Ça y est. Maintenant, les trois membres les plus importants du secteur intérieur de Petro sont à une faute d'être dehors.
Des fautes qui servent à rien, je l'avais dit, quand vous êtes un big man entre les deux lignes à trois points, vous ne devriez jamais faire de faute parce que vous êtes déjà mis assez sous tension au rebond et en défense. Et
vous avez oublié de leur passer l'oreillette, Jacques.
Marnaoui qui va attaquer le cercle. Oh non, c'est pas une bonne passe, il a de la chance parce que le ballon a été touché par Moreira. Il a énormément de chance. Oussama Marnaoui qui a fait un très bon passage en début de troisième carton tout à l'heure.
Il est très très bon hein, défensivement.
Ouais, bien sûr. Bien sûr. Il y a eu aussi quelques passages de mètres de Mamli hein, qui auront été impactants sur Dundao.
Pour l'instant, il arrive à bien contenir.
Il est passé. Oh là là, le deuxième manqué, il y aura la faute de Paolo. Désolé Malik, je vous ai coupé, mais là.
Priorité au direct.
Oh là là, quand Layani part comme ça. Et on va le retrouver sur la ligne. Il a déjà shooté 7 lancers pour 4 réussites.
Alors, quand vous décidez d'orienter votre adversaire ligne de fond, ça veut dire qu'il y a une aide défensive. Là, en l'occurrence, il n'y avait rien. Bon. Et s'en tirer avec deux lancers francs, ça aurait pu être pire.
Ce qui m'ennuie sur ce dunk, c'est que à ce moment-ci, il doit mettre ce genre de dunk. Il doit monter en force et il doit aller chercher le N1.
C'est Leonel Paolo en face. Hein. C'est pas un temps.
Ouais. Et Johnny Pedro est sur le parquet. Il va falloir l'attaquer pour Monastir, pourquoi pas. Ah là, il y a Yannick qui manque à lancer. 4 sur 8 aujourd'hui dans l'exercice retour de Carlos Moraes. La tension sur le banc de Monastir, la tension aussi sur le banc du Petro de Luanda. On va pas faire comme si tout était serein du côté angolais. Un sur deux quand même pour la Yanni. Et 61 partout. L'accélération de Kilde Dundao, la faute de Dixon. Au sol.
Il n'y aura pas de lancer. Faute avant le départ en dribble sur le drive.
Le troisième de Michael Dixon. L'Américain qui joue pour la sélection géorgienne.
Et qui aurait, je le mets bien au conditionnel, entamé des démarches pour devenir tunisien.
Ah.
Ça leur permettrait de recruter un autre étranger.
Et ça serait important. Parce qu'on rappelle que les deux étrangers, c'était sous les mains de Diabaté. Et Michael Dixon cette saison. Carlos Moraes. Ouh, ça roule sur le cercle, la faute au rebond. Et c'est Pedro.
Bien joué, Gaïa.
Et c'est Pedro qui va sortir du match.
Oui,
il n'aura rien fait aujourd'hui à part des fautes. Il a joué un peu moins de 11 minutes 30 pour 2 points.
Mais il a bien joué, Gaïa, parce que j'ai pas eu l'impression qu'il y avait autant de contact. J'espère qu'on va pouvoir le voir. Non, malheureusement, est-ce qu'on va pouvoir le voir? Il n'y a pas eu tellement de contact. Dans un moment où justement vous avez envie de jouer un basketball physique sous l'anneau.
Attention parce que maintenant ça expose Yannick Moreira.
On va attendre que John et Pedro sortent quand même, ils font tout son temps.
Une faute de Yannick Moreira et ça sera la même sanction.
Ils ont quand même toujours Gakou à l'intérieur.
Qui a le même problème.
Oui, plus avant. Donc on essaie de garder Paolo encore 2-3 minutes et puis après on doit lancer Gakou.
Ils sont en train de les pilonner sans Majok. Diabaté Marnaoui qui va faire sauter Carlos Moraes le ballon.
Pas loin du marché. Tout le banc angolais réclame le marché.
Ah, il a pris un ballon. Ah, il a pris un coup dans les joyeuses. Marnaoui. Diabaté. Il n'y aura pas de faute. Comment c'est possible qu'il n'y ait pas de faute là?
Il demande sur le coup. Oh. En plus, l'arbitre de côté était à 3 mètres.
Ouais.
Et ils se sont tous regardés. Les trois, ils se sont regardés. Qui ose siffler?
Alors on reverra pas malheureusement, je crois quand même Jacques, je sais pas si vous l'avez vu.
Il y a une faute sur le coude de Suleiman Diabaté.
Oui, ça paraît assez flagrant. 21 points sur les pertes de balles du Petro du Luanda pour Monastir.
Oh.
Et marché encore une fois.
Alors là sur le pas croisé.
Attention le Petro du Luanda, attention. Le momentum est plutôt côté tunisien pour le moment.
Et je peux vous dire que les joueurs paniquent quand les joueurs commencent à entendre que les arbitres sifflent autant de marchés. Ça, c'est quelque chose qu'il peut aller chercher dans votre confiance.
Je suis derrière le banc angolais, Johnny Pedro, il est prostré.
On vient de l'apercevoir à l'écran Malik, effectivement. qui sera passé à côté de sa finale. Ah, alors que Marnaoui, il était droit, c'était un poil trop fort pour le champion d'Afrique.
Regardez à l'intérieur.
Oh là, pas loin de faire la faute, attention Moreira. Oh, démarché encore.
Oh
une
non
fois.
Il y est. Il y est malheureusement, Jacques. Il fait deux appuis et puis il fait un troisième à reculons.
Slimane face à Leonel Paolo. Dixon. Marnaoui. Attention, Moreira. Gayaza. Et bien joué, Gayaza qui bat son défenseur plus petit. Attention, ils ont réponse à ce que propose le Petro de Luanda, l'US Monastir.
Et si vous n'êtes pas capable d'utiliser Moreira à l'intérieur maintenant, je ne suis pas sûr qu'il soit un avantage. Il a besoin de scorer pour avoir une valeur.
La défense de Monastir est en train de faire la différence. Attention, Gerson Gonçalves va retrouver Leonel Paolo. Sans faire de faute, Gayaza bien joué. Dixon Pascal. Il est fort.
Oh, Moreira, je crains qu'il se soit fait très très mal.
Voilà, ils se sont percutés au sol. Ils se sont mélangés les jambes, là, j'ai l'impression, entre Moreira et Slimane.
Quand on sait que toute sa carrière a été malheureusement entachée de blessures et très graves.
Exactement.
J'ai un peu peur pour Yannick Moreira.
On revoit ici.
Là, il y a Slimane.
Oui, effectivement.
Mais vous voyez, à ce moment-là, Slimane, il n'a rien. Au moment où il tape, il n'a rien. Il n'a rien du tout.
Comme on dit un tox en Tunisien.
Non, mais ça devrait être une faute technique. Ça pollue le jeu, tous ces floppings, etc. Alors là, il est tombé, il y a un mouvement, mais il n'y a personne, il a reçu le coup dans la tête, mais il n'a pas eu mal.
Mais le pire, c'est qu'ils n'ont pas le ballon. La possession est monastirienne.
Mais le panier a été accordé quand même pour Leonel Paolo.
Jockey de retour.
Slimane, Diabaté, très court. Le rebond pour Slimane.
Il a raison, Slimane, il a un avantage de taille. Bien coupé de Marnaoui.
Majok qui va refuser le shoot à 3 points, qui va ressortir sous les mains de Diabaté. Oh, attention! Et le pied, bien sûr.
Allez, on va redonner 14 secondes.
Dixon. Et c'est 21 points. Marnaoui totalement ouvert à 3 points dans le corner. Il n'a pas de réussite. Le rebond offensif peut-être. Et non.
Ah, il fait
attention,
du bien
pour la 5e. Il n'était pas loin, Majok. Et le public se réveille pour essayer de porter Petro. Il prend la tranche d'Undao. Sous les mains de Diabaté pour Marnaoui qui peut terminer la faute offensive.
La faute offensive.
Sifflé contre Diabaté.
Probablement.
Et technique, on y est tout. Faute technique contre le coach angolais.
Paolo qui fait le boulot sur cette action. J'ai pas bien vu si ses pieds étaient dans le demi-cercle. Mais quand même, elle est appelée faute offensive. Paolo est en train de faire le travail. Là, le coach Leto va s'en vouloir. Parce que je peux vous dire que prendre une faute technique à ce moment-ci du match, c'est pas très intelligent.
Surtout qu'il va envoyer Slimane à plus de 90% cette saison sur la ligne. Oh là là, l'attention. Attention.
Là.
Le théorème du commentateur a frappé encore une fois. Julius Cole, c'est de retour.
Et Paolo qui a offert de très très bonnes minutes.
Exactement.
Pénétration, rebond.
Il a offert son corps à la science. Pour paraphraser Étienne.
Ouais, retour de Gakou par contre.
Alors. C'est vraiment un risque, hein. Yannick Moreira qui boite.
Il est passé.
Oh, il est fort, Gonçalves. Il est quasiment injouable. Ça fait 24 points pour lui maintenant. Le manque de poids de Coles, hein, qui est vraiment impactant, préjudiciable.
Belle passe.
Pour Majok. Il répond à chaque fois, Monastir.
Et il la joue bien, Majok.
Et surtout Moreira qui ne peut pas défendre.
C'est ça, Moreira joue bien aussi.
Il la joue bien. Il sait qu'il peut monter directement. Il prend son dunk et regardez ce qu'il fait. Il repart directement en défense.
Non seulement il est pénalisé par les fautes, mais il me semble blessé.
Il a l'air d'avoir mal, hein, Moreira. Vraiment. Il pose un écran ici en tout cas. Carlos Moraes. Donc il tricote face à Marnaoui. La défense du Tunisien est bonne pour l'instant. Et il
cherche la faute.
Ouais. Ça, c'est ça aussi, les joueurs d'expérience. Et il n'en manque pas, Carlos Moraes d'expérience. Un petit peu moins en vue dans cette deuxième
non,
mi-temps.
Non, un petit peu moins en vue. Bon, il n'a pas eu de très très bonne position. On aime bien le voir réagir comme ça en un contre un, mais il faut perpétuellement garder en tête que c'est en équipe qu'on gagne des deux côtés.
65 partout dans cette finale, 4-36 à jouer. On n'est pas plus avancé.
Temps mort demandé par l'équipe du Petro de Luanda. On est à égalité 65 partout. Carlos Moraes va bénéficier au retour du temps mort de deux lancers francs. Je crois que le coach pense non seulement ce temps mort pour faire des ajustements, mais aussi pour donner un peu d'oxygène à son équipe qui joue justement un style de basket up-tempo avec beaucoup de contre-attaques. Et probablement aussi pour vérifier si Moreira pourra continuer le match sans problème puisqu'il avait reçu un choc au niveau du genou. Et donc ça permet au docteur de voir ce qu'il a lieu de faire. En tout cas, ce qui est sûr, pour l'instant, le match est très serré. Est-ce que le match va se décider à la fin de cette partie ou alors on va jouer des prolongations? Là, il est difficile de le dire. On va voir dans la dernière minute qui restera. Ce qui va se passer, c'est qu'il est sûr, Slimane n'a vraiment pas pu contribuer d'une certaine manière sur le plan offensif puisqu'il a quand même joué 25 minutes 30 secondes et n'a marqué que 2 points jusqu'à maintenant, donc son rendement n'est pas cela. Le coach de cette équipe de Monastir a décidé de faire jouer quelqu'un d'autre de temps en temps pour pouvoir justement contrebalancer ça, payer puisque le match est serré et maintenant 65 à 65. Mais nous repartons dans le direct. Deux lancers francs pour Carlos Moraes, joueur du Petro de Luanda.
On va retrouver Carlos Moraes sur la ligne de lancers francs à 4-36. Jacques, de la fin, non, pas seulement de la finale mais aussi de notre saison. Avec un dénouement qui est pour l'instant incroyable dans cette finale si étriquée.
Très serré, même si le début du match nous donnait l'impression que ça allait être un match ouvert rapidement à les défenses. Et parfois aussi le stress a fait que ces deux équipes ont eu à des moments des trous et une difficulté à s'exprimer.
Il ne fait que 1 sur 2 sur la ligne. Carlos Moraes, un point d'avance pour le Petro de Luanda. Balle en main pour Dixon. Jules Scholes, il doit en mettre un à un moment donné. Il doit en mettre un à un moment donné. Et ça tombe au meilleur des moments dans le Money Time.
Comme quoi, le coaching, c'est de l'art.
Malgré tout, Monastir continue à faire tourner le ballon. Et il joue beaucoup mieux que le Petro. Ils ont 19 à 6 pour l'instant. Alors le Petro, on joue un petit peu. Voilà, individuellement. Oh là là, attendez.
Et cinquième, pour qui? Pour Majok ou pour Moreira? Il y en a un des deux qui...
45.
Je pense que c'est pour...
C'est Slimane,
ah non, c'est
le Slimane, semble.
C'est Slimane, pardon.
C'est et Slimane.
Ça sera la quatrième. Bon, c'est un moindre mal, peut-être, pour
oui,
pour
on va dire ça comme ça, d'autant plus qu'il y a Layani sur le banc.
Il avait manqué ses 5 premiers shoots à 3 points, Julius Cole Junior, avant de mettre celui-ci, qui arrive au meilleur des moments... Problème de Yannick Moreira encore une fois sur la ligne.
Il joue sur une jambe, il n'y a pas d'appui.
Ouais, 5 sur 11.
Ouais, c'est difficile.
Regardez-le, hein, il se touche. Hein.
Ouais, mais s'il ne marque pas sur ses premières intentions, c'est pas un excellent shooter au lancer franc et on sait que c'est pas le meilleur défenseur, donc je suis pas sûr de sa valeur pour l'instant.
Alors, on ne sait pas qui sort. Olympio Cipriano qui rentre. Attention, ils sont 6, ça peut valoir une technique.
C'est Gakou qui sort, voilà. C'est Gakou.
Petit match pour l'instant.
Ouais, vous faites bien de le dire, Malik. Et Mathieu qui reste sur le banc. Hein.
Son plus mauvais match de cette saison.
Mathieu reste sur le banc, on peut faire Cipriano. J'aime quand même bien l'énergie offensive de Mathieu. Et défensive d'ailleurs.
Et 1 sur 2 quand même.
Et Marnaoui hein, a bien défendu oui. Sur Gonzalez.
Bien sûr. Sa taille fait du bien pour l'instant. Dixon et Intermajoc.
Excellente action. On sait que cette axe est très très importante. Ça permet à Majoc de trouver des paniers faciles.
C'était Coles d'ailleurs et pas Dixon, me semble-t-il. Ou le step back pour Carlos Moraes, le rebond pour Slimane. Ah, attention,
on n'a plus que des actions individuelles du côté de Petro. Il n'y a plus d'équipe.
C'est le plus gros écart du match à la faveur de Monastir. 3 points. Julius Coles qui part
bonne
s'empêtrer
défense,
dans Moreira.
Ouais. Bonne défense. Excellent lob. Ouais, très bien joué. On n'en a pas eu beaucoup pendant tous ces playoffs, Majok.
7 secondes sur la possession. On retrouve Majok qui s'arrête à mi-distance. Ouh, ça tombe pas dedans.
Il a de l'impact.
Slimane réclame un panier parce que le filet a été touché.
Gerson Gonçalves va retrouver Yannick Moreira. Le contre. Et le panier ne sera pas
accordé. Il n'est pas appelé.
Oh, le contre énorme de Majok. Et Gonçalves, le ballon est récupéré par Malawi Dixon, la faute de Moraes. Anti-sport.
Non,
pour l'instant, c'est une commande foul.
Pas de vie avec Dundao, me semble-t-il. Heureusement que Dundao est rapide.
Très rapide. Moi, c'est en descendant, bien sûr.
Oui,
parce que c'est un jeu de coup, regardez. Boum, elle descend.
Bien sûr. Quelle erreur. Qui pourrait.
Ah
être...
oui, ça, c'est une grosse erreur. C'est en descend.
L'histoire n'est pas terminée, ça pourrait se transformer en faute antisportive contre Moraes.
Vous vous rendez compte, on passe d'une action qui peut vous rapporter 2 points à une action avec une faute flagrante.
Il n'est pas gêné par les fautes pour l'instant, Carlos Moraes. Regardez l'image entre Julius Cole Jr. et Marnaoui. On sent de la confiance, même s'il y a de la crispation, il y a de la confiance quand même côté Monastir. Qui fait une deuxième mi-temps bien plus consistante et bien plus complète que la première. On demande l'antisportif, bien sûr.
Voilà, c'est confirmé.
Et elle est sifflée, c'est bien ce qui m'avait semblé.
Alors ça, c'est un tournant.
Et ça va envoyer Marnaoui sur la ligne. Et du coup, c'est la troisième de Moraes. Il était très adroit en saison, Marnaoui. Il avait mis tous ses lancers, tout simplement.
Et surtout, ça peut donner une action à 5 points. Hein. Imaginez, il met ses 2 lancers. Et derrière, il met un tir à 3 points.
C'est déjà le plus gros écart du match. Et 7 points désormais pour Marnaoui, qui est en train vraiment d'être impactant dans cette deuxième mi-temps.
Ouais, il a rajouté énormément d'énergie, défensivement, offensivement.
Il a éteint Gonçalves. Pour l'instant.
Restons sur nos gardes. Slimane va ressortir pour Julius Cole. Dixon à 3 points. Oh, il n'a pas de réussite.
Là.
Cipriano Olimpio qui remonte le ballon.
Il n'y a plus de mouvement.
Oui.
Non.
C'est
ouais,
vrai, ça, c'est très très statique.
Et c'est pas, et ça, pas bon.
Ouais, c'est la peur de jouer, c'est la peur d'essayer. Vous préférez jouer en statique.
Rodundao, attention, il faut l'aider, Julius Cole. Attention, il faut l'aider.
Et il a deux.
Et il est dehors, bien joué. Très bonne défense de la part de Dundao.
Là, il s'est fait avoir comme un genou. Hein. C'est sa action cause. Il plonge sur le coin avec Dundao sur lui.
Comme il joue en bleu, il s'est fait avoir. Comme
ben, voilà. Ben voilà.
Mais elle n'est pas rassurante, la dernière possession du Petro, avec ce shoot forcé de Cipriano.
Non, ils ont. Mais ça fait maintenant, je vous dis, il y a un moment, on se rend compte qu'ils ne sont pas capables de marquer alors que Majok est en dehors du terrain. On essaye de jouer à ce moment-là avec Moreira et ça fait une grosse quinzaine de minutes qu'il n'y a plus rien qui se passe du côté de Petro. Voilà, Matthews est monté sur le terrain, j'avais dit. Moi, j'aime bien, il a quand même de l'énergie offensive, capable de prendre son choc, capable de créer pour un coéquipier.
39-27 en deuxième période pour Monastir qui a incontestablement haussé le curseur.
Et Marnaoui encore une fois.
Et Marnaoui qui va se faire contrer, mais il y aura la faute.
Pression,
et elle est sur Moreira. Elle est sur Moreira.
Moreira, quelle est sa valeur pour l'instant sur le terrain? Il est mou, il regarde les arbitres, il ne prend pas de position à l'intérieur. Il ne peut pas défendre. Il ne défend pas grand. Il fait pas. C'est pas vraiment un grand défenseur. Mais là, dans cette situation ici, en défense, c'est vraiment.
Alors elle n'a pas été confirmée pour l'instant.
Bien joué Jean-Louis. Hein.
Ouais, mais
en vitesse, il a une bonne taille à ce moment-là. Il a une bonne taille capable de terminer. Il va chercher la faute.
Je me demande si elle n'a pas donné un mot.
Temps mort demandé par cette équipe du Pétrole Luanda qui est en difficulté. 72-67 pour l'équipe de Monastir qui va avoir deux lancers francs. Pour le moment, cette équipe du Luanda, Pétrole Luanda, ne joue pas en équipe, ne tourne pas le ballon, ne cherche pas la meilleure position de tir et ils sont sanctionnés par le score où on voit une équipe du Monastir beaucoup plus expérimentée à ces moments difficiles. L'équipe de Luanda commence à douter de ses capacités à gagner le match. Est-ce qu'ils ont dépensé trop d'énergie dans ce match? En tout cas, ils sont à 27 pertes de balles, ce qui peut expliquer les problèmes qu'ils ont contre 18 contre cette équipe de Monastir, et un taux de réussite pour le Monastir à 43% pendant que celle de Luanda est à 44%. Le match est très difficile pour cette équipe du Pétrole de Luanda. En tout cas, il y a une ascendance psychologique avantageuse pour l'équipe de Monastir qui a juste besoin de marquer ces deux lancers francs dont ils ont besoin pour creuser l'écart et amener la différence à 7 points. Donc on verra bien. Donc on repart dans le direct. Pour le moment, cette équipe de Monastir fait du très très bon boulot. Donc nous revenons dans le direct.
Mais voilà, ils font plein de
choses. Ça bouffe de l'énergie.
On avait peur un peu hein, quand on a vu que c'était Slimane qui allait défendre sur Moreira en début de troisième carton. Il a fait mieux que résister.
Et à ce moment-là, parfois, les équipes en fait vont se figer à vouloir jouer d'une certaine manière. Et c'est là qu'il n'y a plus de mouvement de ballon.
On fait de la gestion. À terre magique qui sort, ça va être une défense un peu haute. Histoire de ralentir la montée de ballon.
Ouais, parce que quand on regarde maintenant les 5 joueurs qui sont proposés par Petro, on n'est pas plus grand que l'US Monastir, à part Moreira.
Mais qui est sur une jambe.
Et il met tout. Il met tout en plus sur la ligne. Oussama Marnaoui. Qui fait l'un de ses meilleurs matchs cette saison. Carlos Moraes. On est sous les deux dernières minutes. Ouh, ça y est, on rentrera pas. Il y aura la faute par contre, très tardive pour Marnaoui. Pas de soucis de faute hein, pour l'instant.
Ah, Carlos Moraes qui trouve la bonne option. Il va à Nome, mais encore une fois, je le pointe du doigt, il n'y a plus de mouvement. Il n'y a plus de shot ouvert du côté de Petro. On doit à chaque fois lutter dans un contre 1.
Et défense un peu paresseuse de Dixon qui ne vient pas aider. Pour reprendre une expression chère à Jacques.
Il aura beaucoup été caché, hein, Dixon, défensivement cette saison. C'est pas le meilleur défenseur sur l'homme. Il aura beaucoup, beaucoup profité hein, de la défense très forte collectivement de Monastir. Et là, Yannick qui a encore une fois demandé aux spectateurs, aux fans, de faire un peu plus de bruit. Et il manque ses lancers en plus, Carlos Moraes.
C'est pas le premier qui rate.
Et ça fait plus 7 hein, maintenant hein, pour Monastir. Oh, que ça devient crispant, que c'est crispant. Bien sûr, deux quand même. Et la défense haute également. Oh,
bien joué,
très bien fait.
Joué.
Extra voilà. Passe, Marnaoui.
Les joueurs sont bien placés.
Ils vont jouer leur rôle.
Et on bouffe du chrono, on bouffe du chrono. Marnaoui est passé sur son premier pas. Oh, il ne peut pas terminer.
Et il le savait qu'il avait, il était contre un joueur tout petit.
Gonçalves. Et le panier accordé, plus la faute. Et le lancer à suivre.
Heureusement qu'on a créé Gonçalves. Hein, parce qu'entre les shots à 3 points et sa défense, il y a du contact
oui.
Sur cette action.
Aujourd'hui. Je ne parle pas de lancer hein. Au général. Sur la ligne, il n'a fait qu'un passage. Il avait fait 1 sur 2 tout à l'heure.
Ils vont regretter ces lancers francs. Ils vont les regretter ces lancers francs.
Ils sont quasiment à 50%. Un petit peu plus que 50%, pardon. 54, voici la statistique.
Oui, mais c'est toujours pas bon.
Non, c'est toujours pas bon, on est bien d'accord.
Belle patience de pause. Ah oui, la cinquième
de Yannick Moreira.
Bien appelé de l'arbitre. Il a été patient dans son attaque.
Et avec ses 18 points, il va sortir et rejoindre.
Conciliabule entre les coachs qui ont fait rentrer.
Ben, ça peut être que Gakou, je pense. Hein.
Gakou ou Paolo, ouais. C'est Gakou.
Il va rejoindre Johnny Pedro. Ouais.
Vous avez besoin d'un peu de taille. Il y a Gakou qui peut vous donner suffisamment de taille. Et je suis pas sûr parce que malgré tout, au rebond, ils sont dynamiques. Les Tunisiens.
Et on va retrouver l'Américain Julius Pauls Junior sur la ligne de lancer franc.
Allez, il est là au bon moment, au bon endroit. Julius Pauls, pour être honnête avec vous.
Et c'est surtout que Monastir marque ses lancers francs, ce qui n'est pas le cas de Petro.
Et 2 sur 2. Et ça fait 2 possessions d'écart à 1 minute de la fin de cette finale.
On va repartir sur un pick and roll.
Il est passé.
Ah, bien joué. Oh là là, c'était... Ah, faute. Il avait bien joué, Gonçalves, avec le high pick-up. Donc, il est passé avec le ballon au-dessus de la tête du défenseur. Mais le reste de l'équipe est complètement étendu.